Welcome back sur le podcast number one around the world, mes petits minous. J'espère que tout le monde va bien en ce début d'année. C'est notre premier podcast à nous en 2025. Je sais qu'il est un peu tard, là, vous allez me dire. Là. Mais je voulais te souhaiter bonne année à toi, mon beau-frère, et bonne année à tous nos petits minous.
Toutou, bonne année. Si, c'était cool. On a vécu un beau temps des fêtes. En plus, on revient revigorer tout un tout nouveau drip de serpent.
Eh oui, man. Puis toi, t'as des hugs.
Moi, man, j'ai des hugs. Puis j'ai appelé un matin Robin, notre monteur français, parce que, tu sais, c'est...
Siffleux.
Siffleux, parce que les Français ont comme du goût. Puis genre, j'ai comme des jogging puis une chemise. Puis genre, peut-être que ça marche pas pantoute. Fait que je l'ai appelé, puis il m'a pas répondu. Fait que, ça, c'est une tentative personnelle. Vous me direz dans les commentaires si ça fait pas de sens. Je réitérerai pas. Une chemise puis des pantoufles, j'étais comme, il y a peut-être de quoi de contre-intuitif.
On dirait que t'es encore en vacances.
Ben, c'est ça, le bas de mon corps, il est encore en vacances, puis le haut, il est redevenu podcasteur professionnel, tu sais.
Mais là, t'as des pantalons de chasse, t'es-tu à chasse tant que t'as le beau-frère?
Non, ou... non, mais c'est le look, country revient à la mode, puis j'ai décidé que c'est mon nouveau... J'embarque là-dedans, moi. Mais pas les bottes, là. J'embarque, mais de façon un peu, genre, tu sais, les new country qui ont un peu l'air de des rappers, genre. C'est, wow. c'est le look que je vise, un genre de gars de country, mais qui a peut-être un face tat, genre.
Dans okay. Là, il s'en vient quoi pour l'équipe, pour notre équipe?
Ben là, on a un nouveau projet intéressant qui est en vente probablement à partir de genre cette semaine. Là, on fait un nouveau projet vraiment spécial, oui, la gang. Là, c'est, ça fait quand même plusieurs mois qu'on travaille là-dessus.
Ça fait nous fait bien plaisir de vous l'annoncer.
Ouais, ben là, c'est la première fois qu'on en parle sur le podcast, puis nous autres, ça fait longtemps qu'on n'en parle pas puis qu'on travaille là-dessus, fait que ça, c'est de quoi qui nous excite. Dans le fond, c'est qu'on décide d'essayer de starter notre propre show de dating devant le public. T'es-tu capable d'expliquer un peu...
Ça va s'appeler Too Blind to Date. C'est un show de dating à l'aveugle. Le concept n'est pas compliqué. On reçoit des célibataires à tour de rôle. On reçoit une fille pendant 15 minutes avec un bandeau. On la podcast, on la travaille, on la questionne sur sa vie de dating, sur c'est quoi son homme idéal. Comme on sait si bien le faire, on se reprend un break.
Exact.
Ensuite, on la retire de la scène. On fait venir un gars, encore la même recette, à l'aveugle. On le cuisine comme un malpropre pendant une quinzaine de minutes. Ensuite, on reçoit les deux célibataires, le gars, la fille. Puis là, on les fait se dater à l'aveugle. Environ une quinzaine de minutes, on va leur faire des jeux, se filer, le vibe et tout ça. Puis ensuite, on leur demande, à yeux couverts, est-ce que vous êtes down de continuer ou vous n'êtes pas down? Là, s'ils sont down ou pas, on retire le masque. Et c'est là qu'on va voir si l'apparence a un rôle ou pas sur ce qui se passe entre les deux. Puis ensuite, il va y avoir toutes sortes de twists. Il y a d'autres candidats qui vont venir essayer de voler. Il va y avoir les spectateurs qui vont pouvoir poser des questions. S'il y a quelqu'un dans le public qui est down pour le gars ou pour la fille, ils vont pouvoir aussi essayer de prendre la place du prochain candidat.
Ouais, c'est ça. Ben, venez voir, pour de vrai, ça va être vraiment nice. Puis, tu sais, c'est une nouvelle affaire. Fait qu'on l'essaie, puis on va se pratiquer ensemble. Puis, fait que c'est un genre de Love is Blind, mais sur scène, puis à notre sauce, version un peu plus ratchet. Ça va être drôle. Pour de vrai, ça va être cool. Puis aussi, une des raisons pourquoi on voulait faire ce show-là, c'est qu'on aime ça se déplacer en région quand on fait des shows. Puis, on aime vraiment ça faire des shows. Puis, un podcast, des fois, ça s'exporte plus mal quand on va loin, mais des célibataires, il y en a partout. Fait que c'est comme un show qu'on va pouvoir faire partout. Tu sais, fait que si t'es un peu plus loin, t'es en Abitibi ou whatever, mais il y en a des célibataires pareil. Fait qu'on peut se ramasser une gang puis faire ça, puis ça va être le fun. Fait que non, je pense qu'il y a vraiment du potentiel. Puis fait que venez, là, les billets sont en vente. On fait la première à Montréal, mais le but c'est d'aller un peu partout. Fait que vous pouvez même commenter où vous voulez qu'on vienne. Puis si vous êtes dans le coin de Montréal, ben venez voir ça. Là, ça va être une première, puis ça va être bien excitant. On a même une nouvelle personne avec qui on va collaborer, une nouvelle face, des nouveaux invités, une nouvelle mouture. Fait que ça va être le fun. Là, on teste ça ensemble. Fait que venez vous-en. C'est le 6 février qu'on fait le show. Fait que les billets sont dans notre bio. Là. Venez checker ça.
Exactement. Puis inquiétez-vous pas, prends un break, continue. On va vraiment avoir deux shows, ça va être disponible sur YouTube. La même recette, là, c'est pas un podcast, c'est vraiment un show devant public. Puis c'est ça, venez nous voir, on a bien hâte, fait qu'on fait un premier test, puis après ça, on va voir ce que ça donne, puis on va mettre ça... Ça a route.
Ouais, ça va être malade. Puis si vous voulez encourager quelque chose d'autre, nos amis de Chieras et compagnie sont encore là pour cette semaine. On les remercie. By the way, quand on fait des shows en région, ils ont souvent leur stand aussi, ils nous suivent. C'est nos meilleurs, ils sont tout le temps avec nous. Fait que utilise le code BREAK15, tu vas avoir 15% de rabais sur tous les produits en magasin. Puis si tu peux faire ça en buvant de la Monster pour rester réveillé, parce que eux autres aussi sont incroyables. Fait que je pense que sur ce, on est prêt à recevoir notre invité de cette semaine.
Oh yeah, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sans plus tarder, c'est un snowboarder professionnel. humoriste. Il a écrit une toune qui s'appelle Abitibit. Sans plus tarder, on accueille Mathieu C. Ça va? Top shape.
Yes sir, yes sir. Merci de venir sur le podcast.
Fait plaisir.
Je t'ai vu, tu ressembles à Kenny Reeves.
Ah ouais?
Mais de façon Walmart.
C'est bien gentil ça. C'est... Fait que tu veux dire que je suis comme Kenny Reeves, mais plus accessible.
C'est exactement
ouais,
ça. C'est
ouais,
ça.
La version accessible de Kenny Reeves, je pense que c'est une bonne façon de te décrire quand même. Mais Chris, je suis content qu'on te reçoive sur le podcast. Ça fait quand même longtemps qu'on parle de te recevoir parce que nous, ben là, tu as dit on en parlait souvent, mais nous, on a genre l'âge de t'avoir suivi à Télétoon. Là. Fait ouais, que ouais, c'est moi, c'est déjà. En ce moment, c'est la première fois que je te vois, puis là, j'ai l'impression que j'écoute Télétoon la nuit, genre
ah ouais,
back
ça?
In the day. Ah oh, ouais, là.
T'écoutais-tu ça aussi?
Ouais.
Tu veux-tu le call?
C'est le, quoi, le call pour faire la gig, ça?
Non, le call que je faisais tout le temps à Télétoon la nuit.
Ah ouais, fais-le don.
Parce que c'est le fun de regarder des cochonneries en famille. Voilà.
Même oh,
yeah.
Toi
qu'il y a 12 ans.
Yeah.
Fait que là, comment tu vas, toi?
Ben, ça va pas pire. Ça va super bien, en fait. Puis, depuis Télétoon, sais-tu, j'ai eu le temps de faire 3-4 affaires. Fait l'épicerie. J'ai fait des shows. Je me suis casé avec une nouvelle boîte de production, de gérance. Fait que c'est vraiment cool. Pour
ouais,
vrai, j'ai
ça.
Plein de projets. Je pars à un festival cet été à Joliette, festival du rire de Joliette. Ça va durer 4 jours. 3 jours, excuse. On a 60 humoristes qui viennent. Il va y avoir 40 shows. Fait que c'est quelque chose de gros. Fait que je suis dans la prod en même temps que je suis dans les spectacles. Fait que j'écris des textes, je fais des clips, puis... on part un festival.
Ben, c'est ça. Ben, je me trompe-tu? Ben, justement, moi, je te suivais à Télétoon parce que j'étais un peu un stoner dans ces années-là. C'était comme un peu ton target. Mais je trouve que ton stand-up a comme pris une coche depuis que tu n'es plus à Télétoon. Genre, tu penses-tu qu'il y a une genre de corrélation que des fois, une gig familiale un peu de même, ça peut nuire genre à faire du stand-up genre puis d'avoir... tu sais, un peu plus peut-être edgy genre sur scène que ce que tu peux être à Télétoon, j'imagine.
Ben oui, c'est sûr. Je veux dire, Télétoon, c'était... C'était à double tranchant. Tu sais, je sortais de l'école de l'humour quand j'ai fait ça. Moi, j'ai fait l'école de l'humour en 2007, 6 mois avant que tu naisses. Puis après ça, j'ai fait les cours. J'ai fait Télétoon de 2012 à 2015. Fait que c'était un petit peu en sortant de... Ouais, à peu près. C'était en sortant de l'école de l'humour. Puis ça donnait une bonne exposure, mais c'était tough parce que t'as 30 secondes. T'as 15 secondes pour puncher, 30 secondes pour puncher. T'es devant un green screen. Tu passes entre les Simpsons, Family Guy, South Park, etc., etc., et American Dad, etc. Et tu dois puncher rapidement. Tu fais ton punch, tu en retournes au.
Il
n'y
a pas un esticha, genre. Fait comment tu fais pour savoir si c'est drôle? Genre, le monde, il rit-tu un peu en arrière des caméras? Genre, tu peux faire un mini feedback ou c'est juste.
Pas tant. C'est pas comme à la radio. À la radio, tu comptes un gag, tu vas voir les autres qui vont se forcer pour rire parce qu'ils savent qu'il y a un fret, si personne rit, tu sais. Fait que. Mais là, c'était pas le cas. Là, c'était. On rit quand c'est drôle, on rit moins quand c'est pas drôle. Puis, tu sais, quand tu filmes, mettons, je dis n'importe quoi, mettons, tu filmes 4 semaines en 2 jours, c'est sûr que tu as des up and down, mais on est dans l'énergie, dans le delivery. Fait que c'était vraiment quelque chose à faire. Puis, comment ils m'ont pris au début, c'était justement pour les stoners, plus que pour les enfants, parce que les stoners, ils oubliaient quelle émission ils écoutaient. Fait que, c'est vrai, il y avait tellement d'annonces qu'entre deux épisodes, mettons, entre deux parties de l'épisode, t'avais du chamois, t'avais du Magic Bullet, t'avais comme plein d'annonces de appel 1-800 puis bénéficie.
Puis Chris Simpson, American Dad, c'est pas loin d'être tout pareil ces comics-là, là, au final. Là.
Ben c'est ça, exactement. Fait que le monde se demandait, c'est quoi j'écoute déjà? Fait que moi j'arrivais entre deux séquences, puis je disais, hey salut, ta-da-da, punch, on retourne à American Dad. Puis après, s'il y avait d'autres annonces, puis le monde était comme, ok, je regarde American Dad. T'sais.
Ça finit-tu par faire chier de se faire reconnaître, genre, en étant ce gars-là? Tu sais, des fois, on entend les vedettes, mettons, je sais pas, Miley Cyrus, qui était genre une vedette Disney, était comme là, tu sais, faut que je change mon image, si je peux pas tout le temps être associé à ça. Toi, t'es pas Miley Cyrus, mais genre, t'étais beaucoup associé à Télétoon, genre, ça gosse-tu pour une image d'artiste à un moment donné?
Ben, je me fais quand même souvent confondre avec Miley, mais quand même, j'ai trouvé mon image. Ça a été après, j'ai eu plusieurs gigs après qui m'ont qui ont upstagé ça, tu sais. J'ai fait Infiltration. Où est-ce que j'ai fait la 4e saison d'Infiltration, où est-ce que le monde m'en a parlé. Puis après ça, Skate le Monde, ça a été majeur.
Ça, c'est vrai, toi, ouais.
Fait que ça, j'étais devenu Monsieur Skate le Monde plutôt que Monsieur Télétoon, tu sais.
Okay.
Puis sur scène, ben ça, c'était mes shows. Puis ceux qui me connaissaient, ben j'animais des soirées d'humour partout au Québec. J'étais à Trois-Rivières, à Joliette, Saint-Jérôme. J'étais un peu partout, à Sorel. Puis partout autour de Montréal, j'étais présent sur scène pour les... dans le temps, c'était les core fans d'humour. Tu sais, maintenant, il y en a beaucoup plus. Mais dans le temps, le monde allait dans les soirées d'humour plutôt que regarder des podcasts, tout ça. Fait qu'eux me connaissaient sous un autre angle que M. Téléthon.
Ouais, je comprends.
T'étais professionnel snowboarder?
Ben, je fais des compétitions.
Dans ta jeune vingtaine?
Ouais.
C'était-tu ça ton principal travail avant de devenir humoriste? Parce que c'est devenu humoriste comme plus vers l'âge de 30 ans. C'était quoi dans ta vingtaine?
Ben, j'ai fait des films de snowboard, en fait. J'étais snowboarder professionnel, c'est un gros mot. J'ai fait des compétitions de snowboard qui étaient de calibre professionnel une fois de temps en temps.
Okay.
La dernière que j'ai faite, on était à Whistler, il faisait chaud. Et le runway pour se rendre au jump était tellement slotcheux qu'on n'avait pas assez de vitesse. Puis j'étais le troisième à partir. Fait que t'as le premier qui part, il part, puis il donne tout son speed. Tu vois, il pompe. Puis t'avais un 50 pieds de flat éclairé avant d'arriver à la zone d'atterrissage, au landing. Puis je te jure, il devait manquer genre 15 pieds. Là. Pow! Il se pète les deux genoux. Là, le deuxième voit ça. Je le vois. T'as tout à la même place. Là, tout le monde a une petite montée de 15-20 pieds plus haut dans la côte. T'sais. Le deuxième part. Pac! Il se répète juste avant la chose du scoping. Puis moi, j'étais le troisième. J'étais comme, hey, fuck that, man. Moi, je décalisse. Puis je suis parti. Puis ça a été la dernière fois que j'ai fait une compétition. Puis ce qui m'a motivé à partir, côté compétitif, c'était comment les snowboarders se font exploiter par rapport aux autres sports. Puis je trouve ça vraiment pas fair. Parce que quand tu regardes dans la Ligue nationale de hockey, tu peux avoir quelqu'un qui bench le trois quarts des games, il va faire moins de 6 minutes par game, ou moins de 2 minutes par game. Il va être payé facilement 500-600 000 en montant.
Ben oui.
Pour un snowboarder, gagner ça par année, faut que tu sois dans les top. Et ce que je trouve cheap, c'est qu'en même temps, ses sacs de chips, dans le temps, il mettait Sean White, Pan Waidon.
Mais lui, il devait faire du gros cash, par exemple.
Lui, il faisait du gros cash. Sauf que pendant que nous autres, on se pétait à gueule, quand on gagnait, le premier qui gagnait la compétition que je te parle, à Whistler, il gagnait quelque chose comme, je pense, c'était 30 000 piastres en bourse.
Ou un skidoo, genre.
Ben, genre. Puis en bas de la côte, t'avais une compétition de golf. Oui, il se faisait 15 000 piastres par trou qu'il faisait. Tu sais, puis ils risquent pas de se casser la nuque, puis ça va bien, ils font frapper sur une balle. Je sais qu'il peut y avoir des blessures au golf, mais rien de comparable au snowboard. Là. Fait que je trouvais que le ratio risque versus bénéfice, c'était pas là. Puis maintenant, ça s'est rendu un petit peu mieux parce que, justement, le snowboard est pris plus au sérieux, c'est aux Olympiques, tout ça, mais dans le temps, c'était n'importe quoi. Là.
OK. Puis en termes de travail, carrière, tu faisais quoi?
Je faisais des films de snowboard.
C'était ça.
Okay. Ouais, moi, j'ai déjà compté ça à sous-écoute, mais je vais le compter en version un peu plus détaillée. Là, mais ce qui s'est passé, c'est début des années 2000, OK? Je voulais continuer de faire du snow, je voulais plus faire des compétitions. Fait que là, j'ai appelé mes chums, puis j'ai dit, hey, ça vous tente de faire un road trip de snowboard? Ils ont tous dit oui, évidemment. Puis j'ai dit, je vous reviens avec les détails. Fait que là, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé des montagnes, une à une. J'ai appelé Blue Mountain en Ontario. Puis là, j'invente. Là. J'ai dit, hey, it's Matthew Sear from Coast to Coast Productions. We would like to go at your resort, shoot a snowboard video. Puis là, je m'attends à ce qu'ils disent, OK, yeah, nice try, puis qu'ils raccrochent. Mais même pas, ils disent, yeah, well, what time you want to come? Je dis, oh shit, man.
Ça marche.
Ah oui, ça marche. Là, je suis comme, là, je dis n'importe quoi. Je dis, February 12, sure, how many days? Two days? You need food? Yeah, you need accommodations. Yeah, we need condos. Fait que là, ils nous donnent des condos, de la bouffe pour 2 jours à Blue Mountain. Là, après ça, j'appelle une autre montagne à côté, Searchmont Resort, qui est plus petit que Blue Mountain, point de vue cash. Fait que tu sais, là, tu dis, hey, Blue Mountain a déjà dit oui, t'embarques-tu? Fait que là, Searchmont dit, ouais, on embarque. Fait que là, j'ai un autre 2 jours à Searchmont. Après ça, j'appelle une montagne au Manitoba. Je savais même pas qu'il y avait des montagnes au Manitoba, mais en fait, tu roules dans la plaine, là, dans la prairie, puis à un moment donné, il y a un trou.
OK.
Ça, c'est la première fois que je prenais un chairlift, j'arrive en haut, puis il y a un champ, man. Il n'y a pas l'autre versant de la montagne. Fait que là, on arrive là, puis on a eu cette place-là. Après ça, on a eu les petites places dans l'Est. Là, on dit, OK, ouais, mais là, on va aller chercher l'Alberta puis la Colombie-Britannique, ça va être tough, là, tu sais. J'ai appelé Lake Louise, ils ont dit oui.
Tabarnak.
À Banff, on a eu 2-3. Sunshine Village a dit oui. Après ça, Whistler dit oui. Là, finalement, j'appelle à Mammoth Mountain en Californie, ils disent oui. Là, j'ai tout ça qui dit oui. Je suis comme, oh shit, man, OK, ça marche.
Ça va trop bien.
Ça va trop bien, mais j'ai pas de truck. Fait que là, il faut que j'achète un truck, parce que j'ai pas une scène. Là, t'sais. Moi, je fais mes petites compétitions de snowboard, puis j'ai pas d'argent. Ouais. Fait que là, je demande à mes chums de me donner 2 000$ chaque. Puis je dis, pour 2 000$, t'as 2 mois de snowboard tout inclus. Et je suis allé chercher une commandite de Harvey's qui m'ont donné 5 000$ de burger.
Christ,
je te pas. Puis Airwalk m'a donné des snowboards. Fait que tous mes chums qui embarquaient, je leur donnais justement les burgers quand on n'est pas dans un resort. Puis je leur donnais un snowboard chaque. Fait que pour 2 000$, c'était un esti deal. Là. Fait que vu qu'on est 6, il était 5, ils m'ont donné 10 000$. Bang, je suis parti, j'ai acheté une van, parti avec le logo et tout ça. Après ça, quand on est revenu, j'ai une subvention d'aide aux jeunes entrepreneurs que j'avais appliqué pour.
OK.
Fait que, puis suite à ça, on a vendu les films dans les magasins qui, dans le temps, si vous avez un auditoire plus vieux, c'était En Équilibre. Puis c'était les magasins de cette époque-là. Il y avait Performance aussi qui vendait ça. C'était des magasins de snowboard, skateboard dans ce temps-là.
Fait que c'est une copie physique, là. Fait que t'es un vrai hustler, là, toi. Là,
ouais, c'était du VHS, man.
Puis tu gagnais ta vie avec ça, genre. T'as été capable de faire vivre combien de temps avec ces films-là?
4 ans.
Tabarnak!
Un film, j'ai fait ça. En faisant un chaque année.
Chris, c'est hot,
puis tu chargeais-tu à me mener de l'argent aux compagnies de aux montagnes?
Non, jamais, parce que, tu sais, ce qu'il offrait, c'était... Nous, on y allait, le deal, c'est qu'on y allait en basse saison. Puis okay. ce qui est le fun, parce que pour nous autres, la basse saison, c'est le best. T'sais, quand tu fais du snowboard, tu ne veux pas y aller dans les vacances de Noël. Premièrement, les line-up sont fous.
Trop de monde.
Hein. C'est souvent glacé. Fait que quand tu arrives au mois de mars, avril, c'est de la belle neige. C'est parfait pour faire des shots. Il fait soleil plus longtemps. Fait que pour eux autres, c'était win-win. Là, on remplissait leur condo quand il n'y a personne. Puis nous autres, ben, on se faisait recevoir quand c'est le meilleur temps pour nous autres.
Puis vous sortez ça pour la prochaine saison de snow,
ça? Exact. On faisait le montage, tout ça. On sortait ça genre fin août. On sortait nos trucs. Puis il y a des magasins au Japon qui achetaient ça. Puis pour eux autres, c'était de shit. Là. It's Canadian movie, ta-ta-ta. Puis je recevais un appel. Yeah, it's Matthew's here from Coast to Coast Production. Puis là, un skate shop de Tokyo qui veut 100 copies du film.
Ouais, c'était exotique.
I'm big in Japan, man.
Ah, mais Charles Jourdain, on avait reçu, Charles Deschamps, on BMX. L'avait reçu sur le podcast, là, l'animateur du Gang Show, puis lui, c'est ça, il faisait du BMX avant, genre, puis là, il a viré sur stand-up. Y a-tu, genre, tu penses, mettons, sport extrême, stand-up, tu vois-tu des corrélations ou c'est les deux mondes complètement à part?
C'est une bonne question, parce que c'est exactement le même feeling.
C'est le même feeling, hein, le petit rush d'adrénaline, genre.
Exact. J'ai longtemps fait, moi, ce que je faisais comme compétition, c'était soit du big air ou du slopestyle. Puis je trouve que faire du stand-up, ça revient à faire du slopestyle. Tu sais, t'as plusieurs obstacles, puis chaque fois que tu comptes un gag, quand ça rit, bang, t'as l'endé ton truc. Quand ça applaudit, t'es comme, OK, ça, c'était un de mes gros trucs dans ma run. Ta run dure 8 minutes au lieu de durer 3 minutes 20 en snowboard ou quelque chose du genre. Fait que c'est plus long, mais le rush d'adrénaline, c'est vraiment similaire. Sauf qu'au lieu de te péter la clavicule, tu te pètes l'ego.
C'est quoi qui fait le plus mal?
Ah, c'est dur à dire, man. Ben, tu sais, je dirais dans les premières années, l'ego. L'ego, ouais. Ça fait mal. Tu sais, dans les premières années, tu te juges. Tu juges ta carrière puis ce que t'es sur tout ce que tu dis. Tu sais, puis à un moment donné, tu te dis non, c'était juste ma joke qui était mauvaise, puis c'est pas grave. Tu sais, j'ai écrit une mauvaise joke, j'ai fait une mauvaise joke, puis va en avoir d'autres. Puis quand tu as cette humilité-là de dire « c'est pas moi, c'est mon stock », ça crée une espèce de dissociation qui fait comme « je ne me suis pas planté, mon texte s'est planté
okay. ».
À moins que tu arrives sans préparation et tu dis « non, on m'a fait confiance », puis là, tu te plantes, là, c'est toi qui s'est planté. Mais si tu as vraiment appris tes lignes, ben je pense qu'à un moment donné, l'ego, ça fait mal pareil, mais tu es capable de te relever de ça.
Ça serait après combien de temps, toi, que tu dis que tu étais capable de passer au travers de ça?
Ouais, ça a pris au moins... 10 ans, je dirais.
10 ans.
C'est long, là. 10 ans, puis, tu sais, j'en ai fait, puis parce que, puis même encore là, tu sais, je veux dire, quand je me plante, ça dépend de la gig. Si c'est une petite gig, c'est pas grave. C'est un petit show de bar ou un corpo.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Des fois, les conditions sont pas là. Tu sais, j'ai fait des corpos à un moment donné. J'étais dans un camping. Quand je commençais justement à faire de l'humour, j'étais dans un camping. J'étais dans les marches qui se rendaient au stand hot dog, tu sais. Puis, il y avait une espèce de petit chemin en avant de moi. Puis là, t'as du monde qui passe en corde de golf, tu sais. C'est un camping. Fait que là, t'as le monde de l'autre bord qui sont sur leur chaise de patio. Puis là, ils te regardent avec le soleil dans la face. Puis là, j'avais 45 minutes à faire. Écoute, je me suis planté, man. Un moment donné, un gars, il a pris le mic pendant ma prémisse. Puis il dit, Guylaine, tu veux-tu la moutarde dans tes rateurs? Puis là, il gueule ça. Puis là, moi, il y a mon micro dans les mains. Il peut s'en aller avec, là, tu sais. Une erreur de débutant, ne laisse pas ton micro à qui que ce soit, tu sais, mais c'est ça, c'est le genre d'affaire que tu vis quand t'es jeune. Quand t'es jeune, tu vis ça.
T'as-tu pensé à le puncher, genre, donne-moi mon micro, mettons, si ça peut-tu...
Ben, c'est sûr que... tu penses après...
Comment tu règles ça, le gars qui demande des hot dogs avec ton micro, genre, tu...
Ben, tu sais, quand t'es devant ton crowd, puis quand t'as une certaine notoriété, ça va, tu te sens à l'aise, puis tout ça. Mais quand t'es nouveau, puis Chris, tu fais une gig de camping, là, pour une couple de 100$, t'es pas... On s'entend que t'es pas Lou José, là.
Non, c'est ça.
Fait que t'arrives, puis tu te dis, « Hey, prends pas mon micro, là. » Le gars du camping va dire, « Ouais, mais lui, c'est notre meilleur client. Toi, on te connaît pas. » Fait que tout ça, toutes les gigs de corpo qu'on a faites au début, beaucoup d'humoristes sont passés par là. T'sais, un comptoir, puis à côté, des machines à vidéo poker. Puis là, t'entends le « ting 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 » quand quelqu'un gagne. T'sais. Fait que toutes ces affaires-là amènent une certaine dose d'humilité. Puis Chris, à quelque part, autant tu te sens malmené par ça, mais d'un autre côté, je veux dire, je suis pas un chirurgien cardiaque, là. Tu sais, je compte des jokes. Fait que ça se peut des fois que les gens ne soient pas sur le bon terrain. Tu sais, c'est pas... S'il y a une erreur, c'est pas grave. Les vies des gens, la vie des gens n'est pas en jeu.
Ouais, puis ils s'en rappelleront pas. Tu sais, c'est ça, la force. Pas d'adhib.
Le public de camping, ils se rappellent de rien, ce monde-là, man.
Non, c'est ça. Son endroit, ça abresse, il y en a, oui.
Je trouve ça intéressant qu'avant l'âge de 30 ans, tu as fait une transition de carrière, passée du snowboard vers l'humour. Ça a-tu été difficile? Est-ce que tu te cherchais ou c'était comme inné? Tu savais que tu ferais ça comme après ta carrière de sportive?
J'en avais aucune idée.
OK.
Aucune idée. J'étais... comment je peux dire ça? J'ai essayé tout, man. J'ai fait tellement de jobs qui n'ont pas marché. J'étais représentant. Quand je te donne un exemple, j'étais représentant pour les Whippets au cappuccino. Je rentrais dans un bar.
Tabarnak, hein?
C'est
niché en esti.
Tu sais, quand je te dis que je n'étais pas chirurgien cardiaque.
Calisse, on est loin, là. Whippet.
Fait que, Gabin, je t'explique comment ça marchait, OK? Je rentrais dans un bar. Mettons, il est 11h, minuit. Je rentre dans le bar, puis j'étais avec des filles de marketing, là, habillées en petite jupe, qui tiennent des whippets au cappuccino. Puis moi, j'étais le gars de marketing à la douche de... Mais l'affaire, c'est que j'étais déguisé en tasse. J'avais une grosse Christie de tasse. Fallait que le monde prenne des whippets puis qu'il lance dans la tasse. Puis si t'en avais genre 5 de suite, tu gagnais ton poids en whippets au cappuccino. T'sais, ou quelque chose du genre, je ne me rappelle plus exactement
qui
du concours.
À ça?
Ben écoute, ben ça a tellement bien marché que le produit n'existe plus. Fait que ouais, ça a été une des gigs que j'ai faites. J'en ai fait plein, tu sais, des choses que tu ne veux pas faire. J'étais doorman au Saint-Sulpice, j'étais planté des arbres en Alberta. J'ai fait, je pense que j'ai eu une cinquantaine de jobs. Puis à un moment donné, j'étais allé à l'École nationale de l'humour, je me suis inscrit. Puis dans ce temps-là, j'étais entraîneur privé. Pour vivre, tu sais, c'était ça qui me rapportait mon fric, mais j'ai juste pris les cours du soir pour le fun, voir qu'est-ce que ça donnait. Puis à la fin, comment ça fonctionne, c'est que tu fais 3 mois de cours du soir, puis à la fin, tu vas présenter ça devant le public. Puis là, j'ai eu un buzz instantané. Là, c'était vraiment... Je me suis planté. Je suis planté en salle, mais parce que j'avais écrit toutes mes notes dans ma main, puis je suais, fait que c'était rendu
trop
moton
bleu. Ah, ça m'a fait ça à beaucoup d'examens au secondaire, cette technique-là. Là, mes notes de maths, là, je commence à suer parce que j'étais poche en maths, puis là, fuck, t'as tout perdu tes notes. Je comprends ton feeling.
Ben c'est ça, c'est la pire technique.
Ah, ouais, c'est la pire méthode.
Puis moi, j'allais essayer sur le stage, fait que mauvaise idée. puis c'est ça, je me suis planté, mais je l'ai calé sur le stage. Hey, je vois plus mes notes, c'est rendu un gros moton, le monde rit. Et juste le buzz d'être de vibe avec le monde qui était là, directement, des entendrez à quelque chose que je dis en temps réel, sont là, je suis là. J'ai fait, OK, c'est ça que je veux faire dans la vie. T'sais. Et suite à ça, j'ai stické là-dessus.
OK, puis ça a été combien de temps, genre, ta période où, justement, tu t'es cherché? Mettons, ton snowboard, t'as-tu, mettons, arrêté ça à 25, puis tu t'es comme plus retrouvé à 30? Y a-tu le long chemin, ça a été comment, ça, mentalement, surtout?
Ouais, ça a été...
Parce que ben, je trouve que c'est un bel exemple de, tu sais, beaucoup de monde qui cherche, tu sais, qui n'aiment pas ce qu'ils font puis qui vont rester dans leur job. Mais finalement, tu sais, tu as fait plein d'affaires puis ça, au final, tu sais, rendu à l'âge que tu as, tu regardes ta carrière puis tout ce que tu as fait, c'est impressionnant. Mais dans ce temps-là, tu te fais dire, ah, calisse, je m'en vais avec mes skis, moi, là, je vais me faire tirer des whippets dans le derrière.
Ben, c'est sûr, écoute, juste quand j'étais à l'école de l'humour, mine de rien, tu sais, j'avais 31 ans, là.
C'est ça, là.
Quand je sortais de l'école, tu sais, j'étais déjà. J'étais pas un jeune, là, tu sais. Et à 31 ans, j'avais bien des chums qui avaient des compagnies.
Des enfants,
tout ça. Puis moi, j'arrive avec mes petits billets jaunes fluo. « Hey, viens-tu me voir dans la grande salle? Fais mon spectacle.
Ouais, »
ouais. Ça va être le fun. Puis là, j'étais dans la salle de l'école, puis il y avait comme une quarantaine de personnes, puis c'était les parents des autres qui étaient à l'école. T'sais. Puis moi, c'était mes chums, là, qui étaient là. Fait que c'est sûr qu'il y a un clash.
Ouais, ouais.
Mais d'un autre côté, j'ai vécu tout. Puis c'est ça, mon mindset. T'sais, toute ma vie... Faut pas que je m'aborde avec le fait que je suis en retard sur les autres. Tu sais, puis c'est pas grave. J'ai essayé d'autres affaires, j'ai pris d'autres chemins. J'ai sorti de l'école de l'humour à 31 ans. Ça a pris du temps avant que je finisse mon secondaire. J'ai fait 6-7 écoles au secondaire, facile, à cause des supposés troubles d'apprentissage. Puis après ça, ben, tu sais, cégep, pas fini le cégep, l'université, pas fini l'université. Quand je suis arrivé sur le marché du travail, j'ai eu au moins une cinquantaine de jobs. Puis pendant tout ce temps-là, t'en avais qui se casaient. Puis directement, ils étaient déjà dans leur carrière, tu sais, ou dans leur job qui était pour garder la vie. Mais c'est pas toutes ces personnes-là, quand je regarde ça maintenant avec du recul, qui sont heureux avec ce qu'ils font maintenant, tu sais. Puis peu importe le cash que t'as ou le fait que t'aies un spa puis un skidou puis t'as l'affaire, c'est pas ça qui fait... Tu sais, il y a une expression qui dit « t'amènes pas ça avec toi dans la tombe », là, mais c'est exactement ça. C'est pas ça qui fait que t'as du fun puis t'enjoy la vie à chaque jour, tu sais. Puis moi, je trouve ça challengeant d'être dans la branche que je suis, dans le métier que je suis, pour justement avoir toutes ces espèces de défis-là qui arrivent à chaque jour, puis dire « OK, il faut que je fasse de quoi? Faut que je fasse un nouveau clip, faut que je fasse un nouveau show, faut que j'écrive du matériel. » Puis c'est ça qui me drive. Puis j'aurais bien de la misère à être quelqu'un qui fait toujours la même chose toute ma vie.
Mais c'est ça qui est le fun, si ça arrête jamais aussi. Mais je pense que c'est ça le défi aussi quand tu commences dans la trentaine, c'est que tu n'as pas le côté cute de quelqu'un qui se plante, mais qu'à 20 ans, tu sais, c'est comme un peu cute, là, mais il essaye, genre, mais à 30 ans, tu arrives, tu sais, tu as déjà une barbe, style, fait que tu sais, tu arrives avec, je sais pas, il y a comme plus d'attente que le gars de 30 ans qui se plante, c'est moins cute que le gars de 20 ans qui commence puis qui s'essaye, genre.
Ben ouais, le monde s'attend pas à. Comment je peux dire? Ouais, t'as exactement ça. T'arrives là, puis tu fais la tournée, tu sais, puis t'as les autres qui ont 22, 23, qui font leur number, puis tout ça, puis ils sont comme, ah, oh, c'est un jeune prodige, tu sais. Puis toi, si tu fais un number qui rentre autant, on va dire, ah, il est bon.
C'est ça.
C'est tout.
Puis ouais. À ton, tu sais, rendu à 30 ans, t'as plus d'attentes aussi envers toi, là. Parce que justement, faut que tu avances, puis que tu te compares un peu aux autres, veux pas, là. Ouais. C'est pas ça le but dans la vie, mais tu sais. Tes chums, justement, comme tu disais, ils ont des business, des maisons, des enfants, des femmes. Une femme pour chaque. Il y en a qui ont.
Non, mais je me souviens qu'il y a beaucoup de Mormons. OK. Que, ouais, ils ont toutes des femmes. 14 enfants femmes. Dans le champ, ils ramassent les choux.
C'est bon. Fait que c'est ça, ça a été un. Puis là, aujourd'hui, si t'avais un chemin à. Un conseil à donner au gars de 30 ans, tu lui dirais quoi?
Ben, tu sais, quand je regarde ça, oui, c'était vieux, 31 ans pour sortir de l'école de l'humour, mais justement, j'avais pas d'enfant. J'avais pas d'enfant, donc j'avais pas les responsabilités que j'ai maintenant avec deux enfants. Tu sais, si t'as pas de responsabilité, si t'as pas de personne qui dépendent de toi...
C'est plus facile de faire le switch, là.
Ben oui, vas-y. Ouais. Vas-y, tu sais, je veux dire, oui, t'as le côté financier, confortable, puis tout ça, mais regarde, j'ai vécu dans un appartement à Hochelaga, j'avais plus de coquerelles que de colocs, là.
C'est ça.
Et tu sais, c'était ça, la vie, puis c'est pas grave. Parce que justement, j'étais tout seul dans ma merde. Je faisais pas subir ça à mes enfants, dire hey, on pourra pas aller en vacances, on pourra pas faire ci, ça. Quand t'as personne qui dépend de ton revenu à part toi, ben suis tes idéaux. Vas-y le plus loin possible là-dedans, puis essaye jusqu'à temps que ça marche. Puis moi, c'est ça que je faisais quand je suis sorti de l'école de l'humour. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de corpo vraiment mauvais. Je prenais tout ce qu'ils m'envoyaient. Okay. Il y avait comme. Puis ça, je te dis, tous ceux qui ont fait l'école vont le savoir, là. Quand tu recevais un courriel puis c'était écrit « communiquer directement avec l'employeur », c'est que c'était de la merde. C'était ce qu'on appelle dans le langage de l'humour une gig brune. Fait que moi, j'y prenais tout. Fait que j'ai joué dans des campings, j'ai joué à un moment donné dans Nuba, dans un salon devant 8 personnes, dont une personne qui était en fin de vie, qui faisait de l'emphysème.
Oh yeah!
C'était fucked up, là. C'était vraiment, tu sais, autant tu te sens important dans la vie de cette personne-là, mais autant tu te dis, man, qu'est-ce que je fais là?
Ça va être bizarre, hein?
Oh, oui! Chaque clap sur un stage, là, tu remplaces ça par. avec un talk sur la machine, tu sais. Puis il y en avait 4 là-dedans qui parlaient anglais. Parce que c'était une famille bilingue, là. Fait que t'en avais 4 qui comprenaient fuck all de ce que je disais, là. Fallait que je fasse 45 minutes devant ces personnes-là. Puis.
Tu payais un peu, ça? Tu payais combien pour ça?
Je t'ai payé genre 150$, là.
Si, boulette!
Ah, ouais, mais dans ce temps-là, Manu, j'ai fait.
C'est la succession qui te paye?
Ouais, c'est ça, même pas. Mais non, mais tu sais, comme je te dis, tu te sens choyé, que tu te dis, OK, mais c'est son. Tu sais, elle vivra pas jusqu'au prochain Noël, puis elle m'a engagé pour que je fasse de l'humour devant cette personne-là. Fait que le côté monétaire prend le bord à un moment donné, puis le côté, je suis nu bas devant 4 personnes, tout ça prend le bord parce que tu regardes juste l'aspect human, puis tu te dis, man, c'est quelque chose d'être engagé par quelqu'un que tu connais pas, un total inconnu qui dit, hey, viens me faire rire, là, il me reste 6 mois à vivre. Semaine, cette personne-là, je suis important pour cette personne-là.
Ouais, puis tu choisis quel joke aussi, genre, c'est quel angle tu prends, tu vas-tu un peu doux, genre, c'est comment, ou tu y vas agressif comme d'habitude.
Ouais, c'est ça. C'est sûr, j'ai pas fait de joke de cigarette, puis de.
T'avais été briefé avant, là, qu'elle était comme ça, la personne. Là.
Oui, mais même si t'es briefé, quand t'arrives dans la place, tu sais, t'es pas. T'es jamais préparé à ça, là. Puis en rentrant dans la maison, je croisais un magicien qui dit, tu vois, ils sont le fun. Il s'en va. Fait que tu sais, eux autres, ils sont commandés une journée de gala, là, tu sais, avec toutes les humoristes, puis ouais.
Mais tu sais, un magicien, ça a plus rapport, là, t'arrives avec des petits tricks, genre, là, comme un petit moment impressionnant, mais genre, un humoriste seul devant quatre personnes, puis dont deux qui parlent anglais, me semble, c'est genre...
Ouais, non, c'était n'importe quoi. Mais tu sais, j'en ai eu des de même, là. Puis c'est ça, je pense, des fois, qui forme, qu'à un moment donné, quand t'arrives, des fois, quand t'as pas vécu ça... Ça va être super cliché, ça, avec, là, mais si tu te rends au top en prenant l'ascenseur, t'as jamais les jambes aussi solides que celui qui est monté avec l'escalier, tu sais. Fait que quand t'arrives, puis que t'as vécu toutes ces mardes-là, quand t'arrives dans un gala, puis il y a quelqu'un dessous, ou dans un show, dans une salle de spectacle, où il y a quelqu'un de chaud qui te dérange, tu te dis, man, attends, là, j'ai 756 personnes qui ont pas de table, qui sont orientées vers moi, qui ont de l'attention, puis il y a une personne de seul qui dérange. M'en torche, man! Je m'en torche! Tu sais, j'ai vu d'autres, là. Fait que, tu sais, tu perds moins tes repères quand ça arrive.
OK, puis ça m'intéresse. Parce que t'aimes, genre, mettons, la première fois que t'étais sur le stage, que t'as trippé, c'était l'espèce de communication avec le monde, tu sais, l'attention que, ça, que genre, un peu t'avais, puis genre, l'espèce de back and forth, genre. Puis t'es devenu gourou aussi dans ta carrière. Puis genre... puis comme gourou, c'est un peu exactement ça, genre, c'est la communication avec le public, puis réussir à leur jouer dans la tête, genre, pour réussir à, comme... passer ton message, genre, puis avoir une espèce d'emprise. Comment t'as trouvé ça? Raconte ton expérience de, genre, devenir un gourou. Genre, comment ça commence comment? Puis genre, comment tu réussis à avoir du monde dans ton harem? Puis genre, explique un peu c'est quoi cette démarche-là.
C'était fucked up, man. C'était fucked up. Ma blonde est là, justement, elle l'a vécu avec moi. Elle joue dans l'émission. C'était 50% vrai, 50% fake.
Okay. Ben, c'est ça, moi, j'ai vu une entrevue, puis j'ai écouté le teaser, puis je vais l'écouter là, sur Apple TV, là, ça a l'air vraiment hot. Là. Le concept m'a frappé, là, mais c'est ça, je suis curieux de savoir exactement, genre, c'était quoi l'angle. Fait qu'il y avait du fake là-dedans, c'est pas tout des vrais. Genre, t'as pas juste convaincu du vrai monde tout le temps. Là.
Non, mais moi, je le savais pas.
OK.
C'est ça qui était fucked up. C'est que moi, je le savais pas. Des fois, c'est moi qui se faisais pranker par la production parce qu'ils payaient des gens pour qu'ils soient là. Puis j'étais pas au courant. Moi, j'étais comme, Colin, ça marche, mes affaires. Ah, j'ai trouvé un bon filon, moi. Ah, je vais me faire des... Puis l'affaire aussi, c'est que dans la vie, je donne des conférences aussi. Tu sais, mais je ne vais pas vers le gourouisme, mais je parlais tantôt des troubles d'apprentissage. Fait que tu sais, je donne des conférences sur comment t'aider quand t'es TDAH, tu sais, quand t'as de la misère à t'organiser dans la vie, des choses comme ça, parce que c'est tough, t'as 18 projets en même temps, puis t'oublies tout. Mais je voulais pas que ces conférences-là soient mélangées avec mes conférences de gourou.
Je comprends.
Fait que là, quand je suis arrivé, la prod est venue me chercher pour faire cette émission-là, j'ai hésité pendant un bout de temps. Parce que le but de l'émission, pour rendre ça intéressant, c'était que je prank le monde qui me suit sur le web.
C'est ça. Pendant 16 semaines, eux autres, ils ont pensé pour de vrai que t'étais rendu un gourou. Là.
Exactement. Fait que pendant 16 semaines, moi, je publie presque plus de clips d'humour sur ma page Facebook, mon Insta, mon TikTok, etc. Presque plus de clips d'humour. Puis je publie juste des choses de... Je suis allé en entrevue avec Jasmin. Jasmin qui est en France. Je suis à Paris aujourd'hui pour donner une conférence devant 3000 Français. Et c'était tout fake, là. Mais juste pour voir qui mordait à l'hameçon, puis il y en a eu plein. Puis ce qui était peurant là-dedans, c'est qu'à la fin de la série, c'est de voir comment ça fait boule de neige, puis comment quand tu pars, tu sais, fake it till you make it, là. Quand tu pars justement avec des faux abonnés, des faux likes, plein de monnaie, pouf, le monde embarque. Puis à la fin, ben, on vendait des billets à 50$ chaque pour remplir une salle d'une conférence qui n'existait pas.
C'est fucked up, ça.
Puis j'avais hâte de le dire que c'était pas vrai.
Ouais, mais c'est ça. Puis le fanbase là, qui est là, là, de base, il y en a-tu plein qui se désabonnent? Genre, c'est quoi la réception du monde qui tue? Chris, t'es tout le temps été humoriste. Puis là, du jour au lendemain, tu veux qu'on fasse des push-ups et qu'on change notre vie? Genre, c'est quoi?
Ouais, ben j'ai vu beaucoup dans mes trucs ne plus montrer les publications genre, okay. À propos de moi. Tu sais, mais quand je dis beaucoup, c'était genre. Une vingtaine, tu sais, puis quand t'as autant de monde qui regarde tout ça, c'est pas tant, là, tu sais, fait que j'étais comme, je me disais, OK, c'est un dommage collatéral, tu sais, de mais c'est vrai, c'est carrément ça, c'est un dommage collatéral, puis ça arrive, puis c'est pas grave, mais de voir ça, ça a été vraiment fucked up de vivre ça, puis de pas pouvoir le dire, quand justement, t'as des vieux fans, tu sais, vous savez c'est quoi, t'en as des hardcore qui vous suivent, puis des amenant en bateau, puis dire, tu peux pas le dire.
C'est ça.
Pendant 6 mois, là, de... Non, c'est pas vrai.
C'est ça, c'est pas juste une joke d'un épisode, là.
Non, c'est ça. C'est une joke de 6 mois, là.
Puis, as-tu pris goût un peu? T'aimerais-tu ça devenir gourou?
C'est quoi le feeling, ouais?
Le feeling est fou. Le feeling est fou parce que t'as une autre prestance que de faire de l'humour. Tu sais, quand tu fais de l'humour, t'es... Mettons, le monde me voit quelque part, c'est « Hey, Matt! Toi, je t'aime bien! » Puis ils prennent une photo, quelque chose du genre. Mais là, c'est « J'aime beaucoup ce que vous faites. » Je trouve que vous venez me chercher dans mon fort intérieur. Puis puis le monde te compte des affaires. Oh, écoute, le monde me demandait des conseils. Je suis avec ma femme depuis 15 ans, je l'aime pas, je suis gay, j'ai jamais été game de dire. Je suis comme,
ben voyons donc.
Je reçois ça sur ma page Facebook, je sais pas quoi répondre à cette personne-là. Je suis comme, écoute, je ne suis pas un spécialiste.
Je t'ai en ce moment.
Oui, c'est ça. Tu peux pas y écrire ça. Tu peux pas y écrire ça, tu sais. Fait que, heureusement, il n'y a pas eu de. Il n'y a rien eu de bad qui est arrivé, tu sais. Mais ça a été. Des fois, on était sur la ligne. Là. On était sur la ligne de. Je continue-tu la joke, on continue-tu la prod ou on fait juste faire. Hey, on tire la plug, puis écoute, c'est trop fucké.
Puis de ce que tu as vu, mettons, le monde qui se font avoir avec ça, l'est-tu du monde que tu penses qu'il y avait une. Qu'à la base, il était enclin à genre ce genre d'affaires-là, tu sais, il trippe sur le fort intérieur, puis tu me parles, tu me fais vibrer. Genre, c'est-tu du monde un peu de même ou ça peut être genre, un peu n'importe qui se fait avoir, genre?
Ben, n'importe qui. Je veux dire, tout le monde, tu sais, quand tu dis tout le monde. Du monde qui était comme plus facilement enclin à embarquer là-dedans, mais tout le monde est enclin à embarquer là-dedans. Ça dépend de dans quelle phase de ta vie. C'est si ta vie va ça. Bien, puis que c'est cool, puis tout le kit, puis ça va comme sur des roulettes, s'il n'y a pas de problème. Mais si à un moment donné, tu sens que tu es off track, puis que tu viens de perdre ta job, tu viens de te faire crisser là, tu as un problème, je sais pas, du monde qui paye des pensions alimentaires, que c'est trop cher pour ce qu'il gagne, etc. Fait que tu sais, c'est du cas par cas. Une fille qui est dans une relation toxique. Quand tu vois des. Quand tu es dans la merde, puis tu vois quelqu'un qui dit hey, je peux t'aider. J'ai les clés pour ouvrir la porte que tu veux ouvrir. Là, t'es comme, oh shit, il y a la clé, man. Pour ouvrir la porte que je veux ouvrir, je sais quelle porte tu veux ouvrir. Je sais comment tu te sens. Je suis déjà passé par là. Puis là, tu t'y vas avec ces phrases-là, avec une voix. Puis j'ai même remarqué dans mon pitch de voix.
La voix, ouais.
Exact, parce que mon pitch de voix, moi, je suis quelqu'un qui garoche. Tu sais, je parle un petit peu high pitch, puis c'est bien correct. Ça ne fit pas avec ma shape, ça ne fit avec rien, mais je m'en calisse. Mais quand tu arrives avec le gourouisme, plus tu baisses ça. Puis là, tu parles plus quasiment ASMR, tu sais. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va écouter des bouteilles avec des faux ongles qui cliquent dessus. Puis là, tu parles comme ça, ouais. Puis ça apaise le monde. Puis quand le monde... Puis c'est prouvé. Puis c'est ça aussi qui était hot avec cette émission-là, c'est qu'on a vu des documentaires. Oh, écoute, on a fait de la recherche pour ça. J'ai vu de la synergologie, comment tu places tes mains, qu'est-ce que ça veut dire, comment tu es placé, ton pitch de voix... Comment t'es groundé, quand tu places tes jambes, quand t'es debout, etc.
Comment, mettons, explique-nous comment faire pour être... Mettons, je veux devenir un bon gourou. Là, c'est comment ma prestance, faut que je sois comment?
Ben, faut que tu sois... premièrement, tu baisses le regard. Parce que si t'as le regard de même, t'as l'air hautain. Faut que tu baisses le regard, mais pas trop. Parce que si tu baisses trop le regard, là, t'as l'air psychopathe. Tu sais que, mettons, regarde, je regarde la cam, mettons, je ris.
Ouais,
tu vois, regarde ça.
T'as l'air dangereux.
Ouais, dangereux. Tu baisses juste d'égal à égal avec la personne, puis tu groundes ta voix. Puis t'écoutes l'autre personne, puis t'essayes de copier ses mimiques. Et si cette personne-là te parle, tu pars à partir de la phrase qu'il t'a dit. Ça, mais ça, c'est hyper manipulateur de faire ça, puis je me sentais cheap de faire ça parce que c'est pas moi. J'ai jamais été fake de même dans la vie. T'sais. Sinon, j'appliquerais ces techniques-là quand je fais des stand-up, puis là, je le fais fuck all. Fait que d'arriver de même, c'est weird, là, mais c'est vraiment ça. C'est d'imiter un peu l'autre personne, comme là, regarde, tu fais toujours un peu avec tes doigts, chose croisée, je te regarde de même. Là, tout de suite, on est plus body, là, tu sais. Je sais comment tu te sens, tu sais.
J'avoue, on dirait que tu me comprends.
Ben oui, je te comprends. Je suis toujours passé par là.
T'essaies de... Ouais, c'est ça. Puis tu redis ce que l'autre personne a dit pour montrer que tu l'écoutes, genre, puis que t'es là. Fait que, mettons, genre, tu me parles que t'as un problème avec ta blonde, ben je vais essayer de redire la même phrase exactement, mais comme trouver une twist.
Ben, c'est exactement ça. Tu redis ce que l'autre personne a dit pour montrer que t'as compris.
Chris, c'est... Ouais, OK.
Je viens de redire ce qu'il a dit. Ouais, c'est...
Sacrément,
ça marche, j'avoue que c'est, ça marche, c'est ça qui est
funky. Puis, si tu, genre, faut-tu que tu le faut-tu que tu sois touché avec, genre, il faut-tu que tu sois un peu, genre, y a-tu de ça ou c'est, tu gardes une distance?
Ben,
ou...
moi, je gardais toujours une distance parce que, tu sais, je suis mal à l'aise avec ça, là. Puis, oui, tu peux être ça. Il y en a qui amènent du réconfort, t'en as qui sont plus. Mais, tu sais, faut-tu y aller comme des grands mouvements amples. Tu sais, quand t'arrives sur scène puis que tu fais une conférence, t'en prends à large. Bonsoir, tout le monde, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Tu sais, des choses que je ferais pas en stand-up. Mais tu prends le plus d'espace que tu prends, le plus tu as l'air en confiance.
OK.
Puis le plus que tu prends de l'espace entre tes mots aussi. Parce que quand tu parles plus lentement, ça a l'air important. Même si tu dis fuck all. Parce que tout le monde écoute ce que tu dis, qu'est-ce qu'il va dire? Fait que si t'es groundé puis tu parles lentement, ça
a l'air plus deep un peu. Ouais.
T'as-tu vu une différence entre les hommes et les femmes sur ce que t'apportais, mettons?
Ah, c'est une bonne question.
Ben oui, les hommes sont plus gênés. Fait que, tu sais, souvent, ça va être. Il y a une espèce de parapluie de la colère qui va par-dessus toutes les émotions. Tu sais, une femme va dire je suis triste, je suis déçu, je me suis senti trahi. C'est le genre de vocabulaire que c'est rare qu'un gars va utiliser. Le gars est en tabarnak.
Ouais, ouais, ouais.
Je suis en tabarnak, c'était pas cool. Ce qu'elle a fait, c'était cheap en crisse. Tu sais, puis ça va être souvent les autres il va mettre ça sur les autres. Je me suis fait faire ça, il est arrivé ça. Tout, comme si tout était externe à lui.
Sans être capable de bien l'identifier.
Exactement. Tandis que la fille, elle, va avoir plus tendance à être capable d'intérioriser ça, de dire « j'ai réagi de telle façon, il s'est passé telle chose, ensuite il s'est passé ça. » Puis elle va être plus capable de verbaliser ses émotions. Fait que ça permet de pouvoir... Puis c'est à double tranchant, encore une fois. Fait que ça permet de pouvoir entrer plus en relation avec eux autres pour les aider. Mais si t'es manipulateur, tu peux les escroquer comme ça n'a pas d'allure, là, tu sais, puis je pense que...
Ben, c'est ça, dans le documentaire, tu parles de Chantal Lavigne, là, qu'elle, elle s'est fait bouillir les organes, genre, parce qu'elle s'est fait manipuler par un gourou.
Ben oui, mais ben oui, elle est morte par bouillie par en dedans, parce qu'ils se mettaient du saran wrap autour d'eux autres.
Fucked up, fait... ça! Puis ça, tu peux le googler, là, sur Internet, qu'il faut pas faire.
Tu peux nous raconter ça? L'histoire de Chantal Lavigne?
Ouais, pas Chantal ça, Lavigne, ben tu veux...
Ben vas-y!
Ben c'est moi, j'ai assez moins que toi, là, l'histoire. Là. Ouais, moi, ce que je peux chercher, c'est ça. C'est fait bouillir l'intérieur. Là,
ouais, c'est ça. Ben c'était une secte. Puis la première chose qu'il faut que tu te méfies, à savoir si quelqu'un est bien intentionné ou mal intentionné, quand quelqu'un t'aide puis que tu le connais plus ou moins, c'est quand il dit de te séparer de ton entourage, là, c'est mauvais signe. Quand il dit, écoute, t'es entouré de personnes toxiques, c'est sûr qu'il faut que tu choisisses tes amis, puis c'est sûr que la loi de « t'es aussi heureux que tes cinq amis les plus proches, puis t'es aussi riche que les cinq amis les plus proches », puis tu sais, ces affaires-là. Mais au-delà de ça, quand tu viens à blâmer tout l'entourage d'une personne et à l'isoler de son entourage, là, man, là, cours, là, ça va pas bien. Puis c'est exactement ça qui est arrivé avec Chantal Lavigne puis plusieurs victimes sur qui on a fait des recherches pour cette émission-là. Puis elle, c'était ça. Elle avait des amis, elle avait un bon cercle d'amis, puis à un moment donné, out of the blue, elle a commencé à être dans un truc... avec une gang. Puis, tu sais, c'était un petit peu comme... Ça a l'air bienveillant puis bien intentionné. Ça part comme les alcooliques anonymes. Hein, tout le monde en rond. Moi, j'ai vécu tel truc, tel autre truc. Puis les gens s'échangent des confidences tellement profondes.
C'est ça.
Tu sais, t'étais quelqu'un qui dit, écoute, moi, j'avais 22 ans puis mon enfant en arrière, je reculais avec mon char. Puis il est mort. T'es comme, tabarnak! Tu reçois ça en tant qu'information. Automatiquement, tu as un lien avec cette personne-là.
Ouais. Puis si toi, tu t'ouvres aussi, tu sens full écouter parce que là, en plus, elle vient de se livrer. Fait que là, tu te sens bien moins gêné de toi-même t'ouvrir. Fait que là, ça crée le cercle vicieux. T'sais.
Exact. Puis ce cercle vicieux-là amène à un lien de confiance beaucoup trop solide pour ce qui serait normal dans la vie. Puis quand tu as ce lien de confiance-là, ben, le gourou, il sait, là, il tire dessus. Puis là, il dit, écoute, on va faire une expérience de sudation. C'était supposé être ça. Fait qu'il était supposé libérer son corps des toxines négatives en faisant de la sudation. Et là, c'est là qu'ils se sont entourés de plastique, puis qu'elle est morte.
Ça a mal fini. C'est ouais. Fucked up, ça.
C'est quoi qui t'a le plus impressionné, puis que tu t'attendais pas dans ton expérience de devenir un gourou?
Ben, pas mal ça. À quel point c'est des algorithmes, puis c'est mathématique. Puis à quel point ces gens-là.
Tu peux l'apprendre, genre, ouais, c'est quand même une recette, genre.
Puis c'est pas un hasard si on sortit cette émission-là à ce temps-ci, parce que ça a poussé comme des champignons dans le temps de la pandémie. Quand le monde, tu sais, on n'avait rien à faire, on était chez nous, on regardait ce qu'il y avait sur le web.
Puis on s'en va où, là, avec tout ça? C'était aussi ça, le mental de genre, ça va être quoi l'après? Ouais. Fait que c'est sûr que quelqu'un arrive, ouais, je comprends, c'est un bon c'est
ah
un
oui,
bon
puis le monde était déjà, on était déjà en isolement des autres personnes, là, tu sais. Pendant le confinement, tu ne voyais pas tes proches. Non, fait que le gourou, il avait 50% de la job de fête, il savait que chaque personne était seule chez eux. Fait que de là, est arrivé une espèce de boom.
Puis les clips TikTok, je suis sûr, il y a eu un impact aussi, genre que tout le monde peut faire du contenu puis être viral avec des clips, là, puis genre ça peut être dans le feed à tout le monde. T'as pu, t'sais, avant, ça devait être compliqué, il faut que tu ailles faire du porte-à-porte, trouver tes adeptes, là, maintenant tu fais une vidéo, genre puis bang, 50 000 personnes l'ont vu, t'en pognes 5 là-dedans, là, bang, une autre, fait que là, ça doit aller bien plus vite, genre.
Ben exactement, c'est ça qui est dangereux, tu sais, je veux dire, TikTok, c'est bien correct si tu vas danser devant un brocoli ou IGA, là.
C'est ça.
Sauf que si t'arrives en disant à quelqu'un, j'ai la solution pour toi, puis que le monde embarque, c'est là qu'il devrait y avoir une espèce de censure puis une espèce de la part des comment je peux dire ça? De la part de TikTok, de la part des dirigeants de Facebook, de la part de YouTube, etc. C'est là-dessus qu'il devrait mettre l'emphase bien plus que quand ils censurent des mots. Ouais. Tu sais, tu peux faire un clip, il s'agit que tu mettes un hashtag Trudeau ou hashtag Canada, pouf, ton clip a 500 vues au lieu d'en avoir 50 000 d'habitude.
C'est fucky, ça.
Parce qu'ils censurent ça, tu sais. Mais si tu mets bien-être, hashtag wellness, hashtag internet, tout c'est... ça passe.
Hein,
alors
vrai,
que c'est eux autres qui vont abuser des gens, bien plus que la personne qui va émettre ses opinions politiques.
Puis avez-vous eu un coaching de genre, mettons tu fais partie de l'entourage proche ou de la famille d'une personne qui est en train, tu le vois là, est en train de tomber dans le trou là, du harem, là. Tu fais quoi? Si, parce que j'ai l'impression que si tu dis que c'est pas la bonne direction, le réflexe ça veut juste être, ben tu fais partie du problème, mais anyway, tu fais partie de mon ancienne vie, fait que genre, fait que tu peux pas le confronter, mais en même temps tu peux pas l'encourager. C'est quoi tu es censé faire? Quand
ben, t'as-tu déjà eu un ami qui sortait avec une conne?
Ouais.
Tu y as-tu dit? C'est ça! C'est exactement ça! Tu y dis pas parce que tu sais qu'il est tellement là-dedans. Ouais. Tu dis, man, si j'ai dit qu'il sort avec une conne, il va dire c'est toi l'épais, blablabla, blablabla. Fait que tu sais, c'est un petit peu ça.
Ça va full le confronter. Ouais. C'est comme quelqu'un de vegan, tu dis, mais en même temps, le monde a le droit d'être vegan, mais dans le sens, ça va confronter sur tes propres. Genre,
mais même si tu y dis, là, moi j'en ai eu, je les ai dit, puis ils sont restés avec. Mm-hmm. C'est pas. On dirait que. Ouais, tant qu'ils sont dans le problème ou dans la sauce, ils restent là, tu sais.
Je gâche qu'après que tu y aies dit. C'est de toi que cette personne-là s'est éloignée.
Ouais.
C'est ça. C'est ça que ça fait. Fait que tu sais, si tu disais à quelqu'un, hey, je pense que ce groupe-là est négatif pour toi, puis tu devrais t'éloigner de ça, bien, cette personne-là, est tellement ancrée là-dedans. Puis comme je te dis, il y a tellement eu de gens qui ont compté leur malheur que le lien de confiance, en quelques mois, peut être plus solide avec ces gens-là qu'avec toi qui le connais depuis 15 ans. Tu sais, il y a un autre gars aussi, je me rappelle plus c'est quoi son nom, c'est un chanteur qui a arrêté de prendre sa médication pour le VIH. Il y avait le VIH, c'était rendu en phase SIDA. Puis lui, justement, il gobait tout ce qu'il se disait en ligne par rapport à ça. Puis il était rendu convaincu que c'était pas vrai, que c'était un virus inventé de toutes pièces, puis que ça n'existait pas, puis que c'était pas dans son sang. Fait qu'il a arrêté de prendre sa trithérapie. Puis ce qui est bouleversant, c'est que justement, dans l'émission, tu le vois faire son témoignage. Puis c'était genre 2 semaines avant qu'il meure. Puis il est en train de parler à la caméra en disant « Ça n'existe pas, votre virus de VIH. Il n'est pas dans mes veines. » Puis 2 semaines après, le gars est mort.
C'est que ça fait peur, ça.
Fait que je suis bien content de compter de belles histoires, ça, aujourd'hui.
Non, mais c'est intéressant. Fait que dans le fond, c'était l'entourage. Il n'y a pas de réponse. Il y a pas de, tu peux rien faire vraiment. Faut que ça vienne de la personne. Genre, il n'y a pas de...
Ben, faut que tu sois aussi smooth. Puis c'est ça qui est tough. C'est que le gourou, tu sais, il est smooth dans son approche. Tu sais, souvent, il va pas brusquer la personne. Je pense qu'il faut avoir la même approche pour sortir cette personne-là de ses démons. Tu sais, quand tu es sous l'emprise de quelqu'un, faut que tu sois smooth. Faut que
tu parles tranquillement.
Ben, non, mais faut que tu parles tranquillement, te mettre en confiance, dis, hey, écoute, on va te jouer au pool, on va te jouer au bowling, faut-tu prendre une bière, on va te faire ça, on va faire ça. T'sais, tu l'invites à faire quelque chose. Puis, tu sais, pendant les 2 heures que tu fais de quoi avec, tu glisses un petit 3-4 minutes là-dessus. That's it, là. Tu sais, pourquoi tu l'amènes? Hey, écoute, faut qu'on parle. Là, ta gang, ta. C'est sûr que si tu confrontes la personne de cette façon-là, tu viens de manquer ta chance de pouvoir la sortir du cercle.
Puis toi, humainement, ça t'a apporté quoi, tu sais, personnellement, à évoluer?
Ça m'a fait revoir tout le matériel que j'ai fait sur scène. Honnêtement, ça a été un esti de reset, là, parce que le stock que je fais sur scène, tu sais, souvent, tu y penses pas. C'est comme quand t'as 22 ans, t'écris des jokes de bébé mort, puis tout ça, puis cancer, puis tu t'en calisses, puis t'as de l'humour vraiment trash. Mais tu sais, quand tu vieillis, puis t'es rendu à 45 ans, puis tout ça, puis t'as des gens, tu sais, une de tes meilleures amies a fait 2 fausses couches, puis son troisième enfant est mort avant l'âge de 2 ans, t'en fais plus de jokes de bébé mort. Tu sais, quand t'as un ou un autre qui a pogné des cancers, puis tout ça, t'es plus smooth là-dessus, t'essayes de mieux les amener. Bien, c'est un petit peu ça que ça a fait avec toutes les gens qui m'ont consulté, puis qui ont écrit des messages en privé, puis qui ont dit « il se passe telle affaire dans ma vie », je me suis dit « OK, forcément, il y a des gens dans le public, quand je fais des shows, qui sont de même. » Fait que faut que je check mes gags. Tu sais, il y a une responsabilité qui vient avec les jokes que tu comptes sur un stage, puis les jokes que tu comptes sur le web ou à la télé. Puis des fois, on n'est pas tout le temps conscient de ça. Ça m'a vraiment mis le nez dedans. Tu sais, check c'est quoi le monde en difficulté. Parce que tu n'y penses pas. Quand tu es dans un show d'humour, tu es sur une balloune, t'arrives, la salle est pleine, il y a une espèce d'ambiance festive, de party, yeah, content d'être là, nan, mais t'en as du monde de même dans la salle.
C'est ça.
Ouais. Fait que sans tout mettre beige puis tout perdre ta couleur, juste tweaker tes affaires pour que ça passe mieux.
Mais en même temps, il y a une opportunité de faire rire avec ça, non? Si c'est nouveau en plus puis que c'est de plus en plus important. Tu sais, mettons, FDB, là, c'est un peu ça qu'il fait. Tu connais Félix Daigle, c'est genre son personnage, il fait le gourou finance, là. Genre,
ouais, avec le col roulé. Il était carré, lui, j'en
ouais, c'est ouais. Ça, exact. Lui, c'est un peu ça, là, tu sais. Il a vu ça arriver puis genre, il s'en sort pour faire rire. Tu sais, c'est devenu son personnage un peu. T'as-tu pensé comme peut-être l'utiliser ou peut-être pas un personnage, mais comme dans ton
style? Ben, je fais des petits clips, des fois, de motivation.
C'est un phénomène. Il y a de quoi de drôle là-dedans aussi, là. Genre, je pense que façon. Puis plus qu'on en rit, plus que ça va sûrement faire que le monde, ils vont avoir plus une pensée critique à pas tomber là-dedans. Là.
Oui, je suis 100% d'accord avec toi. Ce que je parle, c'est qu'il faut tout le temps tu gardes, faut tout le temps tu ris du gourou. C'est ça qui fait super bien.
Ouais, okay, c'est ça.
Tu ris de celui qui est en haut. Faut pas que tu ris de ceux qui se font embarquer.
C'est ça.
C'est là la ligne tu sais, que des fois, tu peux ne pas penser quand t'écris ta joke, tout ça, tu sais, tout le temps puncher up, là.
Ouais, avoir de l'empathie pour la victime, parce qu'on pourrait tous tomber là-dedans. C'est ça qui fait peur, ici, c'est moi, à un moment donné, ça me fait peur de perdre le contact avec la réalité de même, mais...
l'as déjà perdu.
Mais peut-être aussi, c'est peut-être qu'on est là.
Ça de même. Genre, t'es fini, man.
C'est moi qui est dans la caverne, là, on le sait pas, ça fait peur.
Mais ce qui fait peur aussi, c'est que à l'époque à laquelle on vit, puis c'est pour ça que l'émission est toute celle-là, c'est que c'est tellement des chambres d'écho. T'sais, si t'es, exemple, tu tripes sur Joe Rogan, tu checkes tous les clips de Joe Rogan, ben là, soudainement, style algorithme, wouah, il bifurque, puis il t'amène tout le contenu en lien avec ça. Si t'es un autre côté, tu tripes sur Gab Dando Dubois, rac, il t'amène tout ce qui est en lien avec ça. Puis ça crée des espèces de fissures puis de clash que tu voyais pas dans le temps qu'il y avait juste 3-4 postes de télé puis tout le monde écoutait la même affaire.
C'est ça, tout le monde était beige pareil.
Ben tout le monde était... Non, mais tout le monde était... Si t'étais weird, t'étais conscient que t'étais weird. Tu sais, si tu dis, moi, j'aime ça me crosser en regardant des clowns qui pètent des ballons, t'es comme, man, j'étais un esti fucké mental. Là, tu t'envoies sur un site de porn, t'es comme, man, 822 clips de même. C'est normal, là, c'est
des millions de vues.
Ouais, c'est ça, des millions de vues, man, tu reconnais du monde là-dedans. Tu sais, ça, c'est quand ça arrive, ça crée une espèce de segmentation de la société qui fait en sorte que n'importe quel, puis là, je parle de fétichisme, mais n'importe quelle vision ou opinion devient normalisée comme si c'était. C'était ça, c'était le shit. Ça,
je comprends. Ouais. Mais parlant de segmentation de la société, normalement, dans la société, tout le monde vit dans une maison individuellement. T'sais, ça, c'est la segmentation connue. Toi, tu as vécu en 2019.
Je savais que ça en allait là, man.
T'avais vu la transition. Hein?
Si, je le voyais, man.
Toi, en 2019, tu as vécu dans une genre de commune avec genre deux familles qui ont acheté une maison ensemble. Explique-moi, c'est-tu quelque chose qui est viable? Ça a-tu été une mauvaise idée? C'est comment ça marche vivre dans une commune?
Ben c'est drôle que tu parles de ça, puis que ce soit viable, parce qu'aujourd'hui, je suis divorcé.
OK, bon.
Moi et tout, bienvenue dans le
club. Oh yeah, good! Bienvenue dans le club des cassés, man.
Sorry, les boys.
mais ouais, c'est ça, c'était pas... C'est qu'en plus, il y a une espèce d'idéal qui va là-dedans. Moi, ça n'a jamais été mon idée. Moi, c'était l'idée de mon ex, de ma blonde à l'époque. De « on fait ça, il faudrait qu'on fasse ça ». Tu sais, elle voulait faire l'école à la maison. Fait que c'était l'école à la maison, puis on va habiter avec ma meilleure amie puis son chum. Puis on va avoir une maison où est-ce que les deux vont être là-dedans. Comme ça va être cool. Ils vont se tenir les quatre ensemble, tu sais. Moi, d'un autre côté, je me disais, j'étais tellement partout, à tout le temps en train de faire de la tournée, puis en train de pas être chez nous. Je me dis, tu sais, ça change quoi? Tu sais, on va l'essayer. Mais l'affaire qui arrive, c'est le temps que j'achète la maison. L'autre couple, ils se sont séparés.
Hey, ça, c'est ordinaire, par exemple.
Ben oui. Fait que moi, j'ai perdu mon partner de boys, là. Le gars, puis il était fort en réno en plus, c'était un bon gars, j'aimais ça prendre une bière avec, là, pouf, d'un coup, il est plus là.
Hey,
fait que là, je me retrouve avec une maison avec deux madames puis quatre enfants.
Man, c'est... Mon Dieu, OK.
Ouais, ça rentre dedans. Plan, ouais, ça, puis je me sentais pas chez nous. Je pouvais pas être heureux parce que c'était pas comme un duplex, puis ils sont au deuxième étage, là, tu sais, c'était vraiment une porte commune, bigénération, que tu sais, t'ouvres la porte de la cuisine, ils sont là, là, ils ont leur cuisine de l'autre bord.
Ça doit être...
Ouais, c'était fucké.
Ça va être fucké, ouais.
C'était fucké parce que, justement, tu sais, je faisais des skates le monde dans ce temps-là aussi. Fait que je revenais chez nous d'une semaine de... Je pouvais passer, mettons, une semaine à aller tourner, je sais pas, n'importe où, en Finlande ou au Mexique. Puis après ça, j'arrive, je brûle les raids. J'ai fait des 14 heures de skate par jour pour le tournage, puis tout. Décalage horaire, tout. Puis là, j'arrive chez nous, puis c'est le party. Puis c'est ça, ils ont des amis qui sont là, puis ils chantent du karaoké. Puis je suis comme, voyons, tu sais. Fait que là, tu sais, t'as plus ta relation. Que tu es supposé avoir d'une manière intime. C'est comme si tu perdais ton cocon. T'sais, fait qu'en théorie, ça peut être le fun, mais en pratique, faites pas ça. Alors.
Non, hein, puis si tu, mettons, tu sais, vu qu'il y avait deux femmes, là, si tu naises d'avoir, genre, je sais pas, tu sais, il y a une autre personne qui peut garder les enfants, mettons, si toi, tu veux aller passer du temps avec ta blonde seule, ou genre, y a-tu un peu de ça?
Ouais, mais y a, tu sais, y en a plein des gardiennes, là. T'es pas obligé d'habiter en commune pour une gardienne.
C'était-tu tes enfants ou ses enfants à elle?
À Fenave, j'avais deux de mes enfants, okay. Puis deux, c'était les enfants à elle. Okay. Puis tu sais, les enfants à elle, j'étais impliqué, là, je leur ai montré à faire du vélo. Tu sais, j'étais un peu comme quasiment une figure paternelle dans ce temps-là, tu sais. Fait puis des fois, là, il se claquait des crises. Fait que tu sais, d'avoir les crises d'un petit enfant de 2 ans qui n'est pas le tien.
Ah ouais. Là.
Puis c'est pas non plus l'enfant de ton amoureuse, tu sais, mais souvent, t'es dans... En relation recomposée, un couple recomposé, où est-ce que ta blonde a des enfants, ben là, Christy, t'es en amour avec la fille. Fait que c'est sûr que par la force des choses, tu vas aimer son enfant. Tandis que là, ben, t'es pas en amour avec la fille. Là. La fille, c'était une amie de ma blonde, tu sais, puis là, son enfant est là, puis il broye à tous les matins, À 5h45 du matin, je l'entends pleurer. Puis je suis comme, j'ai eu un show la veille, je me suis couché à 2h. Fait que c'est ça.
As-tu mis fin à votre couple?
Ça a contribué. Ça a contribué, mais ça a été un facteur de truc qui a pu mettre fond au couple. Ça en faisait partie. Puis ça a été rough après ça. Je sais pas comment s'est passé ton divorce, mais moi, ça a été...
La mort.
Ouais, moi aussi. Moi, ça a été 4 ans de cours au-dessus de 250 000 piastres. Fait que c'est ça, là, ça a été...
T'es dans le club des ultra-cassés, toi, dans ce temps-là.
Ouais, c'est ça. T'sais,
ça coûte cher à ce point-là. Moi, je savais, tout le monde dit que ça coûte cher un divorce, mais à ce point-là... C'est...
Ça dépend de la motivation de la partie adverse.
Tabarnak!
C'est ça. Puis c'est ça qui est weird avec le système de justice. Tu sais, mettons, tu sors avec une fille, t'as laisse, c'est juste ton ex. Tu sais, ou à te laisse, vous êtes des ex. Mais là, ce qui est fucked up, c'est quand t'embarques dans la partie juridique, c'est plus ton ex, c'est aussi ton ex, mais c'est la partie adverse. Et là, à partir de ce moment-là, tout ce que tu écris peut être retenu contre toi. Tout ce que tu dis peut être retenu contre toi. Puis l'autre personne aussi. Fait que l'autre personne, puis toi, vous parlez comme des robots.
Que ça va être la
bonjour. Aujourd'hui, enfants, j'ai remarqué qu'il y avait tel truc. Est-ce que tu as conscience que c'est impensable de faire telle affaire? Puis là, man, c'est n'importe quoi, là.
Puis là, fait que vous avez des enfants, fait que t'as pas le choix de tout le temps communiquer en plus, genre, ça doit contribuer au... Aïe, man. Pis ça, c'est le mariage qui fait ça, c'est pas le fait d'avoir des enfants, genre, ça veut... faut pas se marier, dans le fond, c'est ça, là.
Ben, le mariage, c'est moins pire. Je veux dire, quand t'as le mariage, t'as juste l'aspect financier de la patente, tu sais. Mais quand t'as le mariage puis les enfants...
Mais c'était juste les enfants?
Ben, c'était juste les enfants, là, maintenant, il y a des lois de conjoint de fait puis tout ça, fait que, tu sais, ça va arriver avec son lot qui est quasiment semblable au mariage, mais tu sais, ça a été fucké à vivre. Là, nous autres, moi, je suis passé devant 3 juges différents. Les 2 premiers juges m'ont dit « OK, tu gardes la garde partagée » et tout ça. 3e juge, j'arrive devant. J'ai perdu la garde de mes enfants en mai 2023, après avoir combattu pendant 4 ans. Pendant 4 ans, les enfants étaient half and half, moitié du temps avec moi, moitié du temps avec la mère. Puis en mai 2023, j'arrive devant le 3e juge, puis ça a tombé que c'était pas la bonne personne. Puis ma face, il revenait pas. Fait que malgré le fait que toutes les chances étaient de mon côté, parce qu'on s'entend que je suis pas un alcoolique, je suis pas un toxicomane, je suis pas un gambler, je suis pas violent, il y a absolument rien contre moi qui puisse être amené en cours au point de perdre la garde de tes enfants, ben la partie adverse a tellement fait une belle job que j'ai perdu la garde de mes enfants. Puis ça, c'est ça le plus tard.
Ça, c'est tes anticommands au moment où tu te fais dire c'est fini.
Ben c'est sûr que tu te sens comme une merde. C'est sûr que tu te sens comme une merde. Je veux dire, tu reçois ça, le... Tu sais, j'avais donné tout ce que j'avais, comme je t'ai dit, 250 000 piastres de bataille juridique, 4 ans en cours, on peut pas dire que j'ai pas fighté, là. Sauf que, au début, tu sais, je peux comprendre qu'il y a des gars qui soient tellement désemparés quand ils vivent ça, parce que c'est tellement coup de poing de recevoir ça. Puis quand j'étais dans la salle d'audience, j'étais le seul gars. Tu sais, la juge était une madame, les deux avocates de l'autre bord, mon avocate, la greffière, toutes les femmes, je suis le seul homme dans la place. Puis je me fais dire, t'as plus tes enfants. Il y a de quoi virer misogyne. Puis heureusement que j'ai une blonde qui est extraordinaire, qui m'a soutenu là-dedans, qui est restée. Ça, c'est tough. On parle souvent de comment c'est dur avec les ex et tout ça. Mais les nouveaux conjoints et les nouvelles conjointes qui restent avec la personne pendant que toute cette marde-là se brasse.
Ah
là,
ouais, faut que tu sois.
Fait un gros fort. Bravo. Merci. Ah ouais. Et là, merci, mon amour. Ouais. Parce que ça a été un 4 ans fucking intense. Puis c'est dur d'écrire du stock. C'est dur de faire de la scène. Tu disais, il faut que j'écrive un nouveau show. Faut que je poste. Man, t'es en train de perdre tes enfants. T'en calisses-tu de ton statut Facebook, là, tu sais? Puis, j'ai pas mis de TikTok cette semaine. Man, torche, man! T'es ailleurs, tu sais, t'essayes juste de sauver ta vie. Puis, quand ça rentre dedans, ben, t'as pas le choix de te relever les manches, puis de partir à partir de ce niveau-là. T'es comme, OK, j'ai 2 choix, là. Soit je pète ma coche, puis je vais bloquer le pont Champlain ou le pont Jacques-Cartier avec les Fathers for Justice en disant que c'est n'importe quoi. Ou soit que j'essaye de comment je peux dire ça, de revirer la tendance de bord du mieux que je peux. Tu sais. Fait que, moi, je pense qu'il y a un problème de ce niveau-là. Puis je pense que le droit familial, c'est pas pour rien que pendant longtemps, c'était le droit matrimonial, parce que les gars, on part souvent avec 2 strikes. Mm-hmm. Fait que, c'est
tough. T'as-tu des idées noires pendant ce temps-là? Tu sais, là, financièrement, t'as plus rien, t'as plus d'enfants. Chris, OK, t'as ta blonde, mais ça reste que Chris, pendant 4 ans, t'es dans le trou. Il y a eu la pandémie à travers de tout ça, tu sais.
Oui, c'est sûr. C'est sûr. J'ai eu des idées noires. J'ai été diagnostiqué avec une dépression majeure pendant ce temps-là. Puis je me rappelle justement que j'avais envoyé ça à la partie adverse pour dire, regarde, on peut-tu arrêter les hostilités? Là? J'ai une dépression majeure. au lieu de faire ça, ben la partie adverse a fait un lien entre ça puis la bipolarité pour me rentrer encore plus dedans.
Fait qu'ils s'en sont servis
comme arme contre moi pour dire que j'étais bipolaire parce que Chris, j'étais en dépression majeure. Puis même le médecin, il l'avait écrit que c'était dû aux conséquences du divorce. C'était écrit sur l'espèce de petit papier du médecin. Fait que de voir cette espèce de parallèle boiteux-là fait envers moi, je me suis dit, OK, je peux plus.
Tu peux pas gagner d'aucune façon.
Tu peux plus rien dire. T'sais, tu peux pas communiquer ton mal-être avec la personne qui pourrait éventuellement t'aider. T'sais, je sais pas si c'est la faute de qui de l'autre bord. Là. Je sais pas si c'est mon ex, je sais pas si c'est son avocate qui a dit de faire ça, je sais pas si c'est l'entourage, whatever, mais tu sais, fait que je veux pas mettre le blâme sur qui que ce soit. Mais quand tu reçois ça, Chris, il y a un problème quelque part. Puis ce qui fait chier là-dedans, ce qui me rend profondément triste, c'est que ça pénalise les enfants. Ils aiment ça, passer du temps avec moi. Là. Je les amène faire des activités, on va faire du ski, on a du fun, on va voir des films, on est en gang, braillé devant un robot sauvage. Fait qu'il aime ça, faire des activités avec moi. Sauf que là, paf, tout d'un coup, c'est coupé, puis ça se passe juste 4 jours par mois au lieu d'une semaine, une semaine.
C'est intéressant, genre, c'est crissement, c'est crissement triste, là, mais genre, c'est vraiment intéressant d'en parler sur un podcast. J'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui est parlé jamais. Genre, mettons, je sais que dans le temps de mes grands-parents, moi, mon grand-père, mettons, il avait perdu la charge de ma mère. Je sais que dans ce temps-là, c'était vraiment l'homme était désavantagé. Là, c'était automatique que ça allait vers la femme. Mais on dirait que tu as l'impression qu'aujourd'hui, c'est comme il y a moins cette espèce d'affaire-là. Mais...
Ben, le problème, c'est que c'est mal vu. On est dans une période vraiment touchée, je trouve, parce que tu as une un gros penchant du balancier vers la gauche. Puis avec raison. OK, on y va. On accepte le mariage gay, on y va, les trans, toute la quête, puis on y va de ce côté-là. Et c'est correct, puis je suis 100% pour ça. Mais je sais que ça fâche du monde. Je suis conscient de ça aussi. Je sais qu'il y a du monde de l'extrême droite qui sont fâchés contre ça. Mais je fais pas partie d'eux autres. Sauf que maintenant, quand t'es un gars blanc qui sent diminué dans une situation, man, mets des gants de velours avant de dire quoi que ce soit, puis... arrive avec des bons arguments parce qu'on a fait chier le monde pendant tellement longtemps que tu peux pas dire hey, « je me sens opprimé ». Tu sais, on a opprimé la planète au complet pendant des siècles. Fait que quand tu arrives avec ça, faut vraiment comme que ce soit touché puis que tu pinpointes ce problème-là. Fait que c'est pour ça, moi, je vais pas avec le... Je pense pas que ce soit le fait que... Je pense que en fait, ils vont plus vers les femmes pour s'occuper des enfants parce que ça a été comme ça pendant des années, puis pendant des décennies, puis pendant des siècles. Mais tu sais, maintenant, je pense qu'on peut passer à autre chose. Je pense qu'il y a des pères qui sont capables de s'occuper de leurs enfants aussi bien que les mères, puis qu'il serait temps que le système de justice prenne ça en compte. Puis quand je suis allé voir les statistiques, justement, pour ça, il n'y en a pas. Tu sais, de savoir c'est-tu plus le gars, c'est-tu plus la femme, tout ça, il y en a, mais c'est extrêmement dur à trouver. Versus quand tu trouves les oppressions qui sont faites aux femmes, ça se trouve facilement. Mais nous autres, ce qu'on subit, il n'y en a pas. Puis il y a une raison pour ça, c'est que Chris, t'es mieux de fermer ta gueule. Puis juste continuer. Ouais. Let it go, man. Let it go. Puis c'est ça qui est tough. Puis surtout en tant que personnalité publique, là, on s'entend que tu peux pas chialer. Faut que tout se passe bien. Chris, quand on s'est laissé, il y a une lettre de divorce que j'ai mise sur le web pour dire que tout allait bien, que j'avais coécrite avec mon ex, que c'est elle qui avait écrit la majorité dans le temps. Fait que tu sais. Juste pour dire, ça va bien, on est des amis, tatata, tu sais, comme Alex Champagne puis Marie-Lou, puis tout ça, c'est supposé être ça avec tout le monde, mais c'est pas ça la réalité, là.
Non.
Fait que je pense que c'est juste, sans que ce soit un côté gars, côté fille, juste s'adapter à la réalité au cas par cas, ça pourrait être payant.
Puis tu sens-tu qu'en tant qu'homme, tu t'es fait manipuler dans tout ça?
Non, je sens juste que j'étais pas outillé. Tu sais, j'ai eu une naïveté, man, de dire. Voyons donc en 2024. Voyons donc en 2023, on va me faire enlever mes enfants. On n'est pas en 1950. Je pensais comme vous autres.
Mais surtout voyons. Quand t'es pas alcoolique. Tu sais, mettons, je sais pas toute la situation, mais quand t'es pas alcoolique, il n'y a pas eu de. Je sais pas si t'as pas de dossier criminel. Genre, tu sais, quand t'as tout est clean.
Je donne des conférences dans les écoles. J'ai une école de skateboard avec ma blonde. On est hyper impliqués auprès des jeunes. J'ai fait des conférences par rapport au décrochage scolaire parce que j'étais un ex-décrocheur. Fait que, tu sais, toute cette implication-là. S'en sont contre-torchés le pied de l'arrêt.
Ça fait peur de voir. Genre, moi, mettons, en tant que gars de 25 ans qui en veut des enfants, là, c'est fou de penser ça. Là. Si tu te forces, tu peux quand même peut-être genre perdre ton enfant. Puis, t'es...
Ouais, mais ça dépend aussi de l'autre personne. T'sais. Puis ça, c'est peut-être aussi parce que. Puis justement, je veux rien mettre sur le dos de l'autre personne, mais le système de justice est mal fait. Au-delà des gens. T'sais, puis t'as beau dire, je vais me pogner le meilleur avocat possible, je vais me pogner la meilleure avocate possible. Faut faire attention quand t'es en divorce. Parce que le but, c'est pas de plumer l'autre. Puis le but, c'est pas de couper l'autre des enfants. Puis c'est pas une bataille à gagner. Chris, t'as des enfants qui poussent, man. T'as des enfants avec leur libre arbitre qui vont grandir là-dedans. Fait que si ton avocat est trop requin, puis que tu gagnes trop ta cause, ben c'est sûr qu'au long terme, c'est pas gagnant pour personne, là. T'sais, parce que là, c'est l'autre qui va mal vivre ça. Puis c'est les enfants aussi qui vont se sentir que t'as trop tiré à couverte.
C'est ça, c'est au détriment des enfants. Ouais. Ouais, c'est fou.
Mais pourquoi t'as perdu la garde de tes enfants?
Ouais, ça, c'est une bonne question. J'ai perdu la garde de mes enfants, ce qui est pour mon horaire atypique. C'est hein? Ça qui est... Ouais, oh, parce que, ouais. Parce que je partais faire des tournages de Skate le Monde. Fait qu'il fallait que je parte une semaine. J'avais demandé souvent d'avoir une semaine. Et ça m'avait été refusé à maintes reprises que je pouvais pas... Là, on avait la garde 5-2-2-5, c'est-à-dire 5 jours chez maman, 5 jours chez papa, 2-2, tu sais, 5-2-2-5. Là, ce qui se passe, c'est que je partais des fois shooter en Thaïlande ou je partais shooter au Maroc. Puis on partait une semaine pour 5 jours de tournage avec des fois des 20 heures d'avion. On ne pouvait pas réduire ça en 5 jours, là, tu sais. Fait que j'ai manqué des jours de garde qui ont été notés. Chaque jour que j'ai manqué a été noté. Et j'ai jamais pu revoir ces jours de garde-là, bien sûr. Et après ça, ce qui s'est passé, c'est que ça a été amené en cours, comme quoi j'étais un père absent. Alors que j'avais demandé tout le temps d'avoir une garde une semaine, puis que ça m'était refusé. Fait que okay. C'est de cette façon-là que ça s'est comme machiné, la patente.
Ah, c'est fucked up, man.
Ouais, parce que tu penses pas à ça.
Non, c'est ça.
Tu penses jamais que quelqu'un va aller jusque-là. T'sais, c'est comme le diagnostic, le supposé, le parallèle entre la bipolarité puis la dépression majeure. Tu penses pas que quelqu'un va aller là.
C'est ça.
Fait que quand ça t'arrive entre les mains, t'es comme, ben voyons donc, t'es-tu sérieux?
C'est ça. Comme toi, si t'avais eu le temps, puis je sais pas, les parents de ton ex seraient tombés malades puis elle aurait eu besoin de plus de temps pour s'occuper de sa mère est-ce qu'elle a le cancer. T'es aurais pris enfant plus, là. T'aurais ben pas oui. Noté ça pour calisser ça d'en face.
Ouais, ouais mais encore là, comme je te dis, c'est peut-être pas mon ex qui a fait ça. C'est peut-être l'avocate. C'est peut-être quelqu'un de
son bord. Mais c'est fucked up que ça puisse, tu sais. En plus, c'est
mais
tellement...
Elle a accepté de le faire.
Ouais, mais t'es tellement... Ouais, c'est ça.
Tu sais, la société encourage à parler de... Tu sais, si t'as des problèmes, des troubles mentaux, des problèmes, genre, la société encourage à, ben, parle, si garde pas ça pour toi, surtout pour les hommes, là, on dirait que c'est le message qui essaie de nous pousser dans la tête. Mais là, c'est comme, OK, mais si j'en parle, je risque de perdre la garde de mes enfants. Fait que, tu veux que je ferme ma gueule d'abord, là, si je prendrais pas le risque de m'ouvrir si ça va me revenir contre moi, genre, c'est bizarre ben, que ça puisse être un. Que ça puisse devenir un arme, genre.
Ben, exactement, puis il y a des préjugés. Tu sais, quand on parle justement d'un gars qui parle à la garde de ses enfants, des préjugés qui viennent avec, là.
Ben ouais, ben ouais.
Moi, c'est... je donne des conférences, justement, comme j'ai dit tantôt. Fait que d'arriver, c'est touché d'en parler, mais je me suis dit, j'ai pas le choix d'en parler. Pas juste pour moi, mais pour toutes les autres qui vivent ça. Puis ça peut être un gars, puis ça peut être une femme aussi qui parle à la garde de ses enfants. Les inégalités sont pas juste à sens unique de ce côté-là, tu sais. Mais quand ça t'arrive, tu sais que tu vas être un paria. Si t'en parles, si j'écris ça sur ma page Facebook, si je fais un clip sur TikTok ou Insta, puis que je dis, hey, j'ai perdu la garde de mes enfants. Tout de suite, dans la tête du monde, ils vont se dire que c'est un alcoolique, c'est un toxico, c'est un gambler.
Qu'est-ce qu'il a fait?
Il a battu ses enfants. T'sais, il va avoir bien du charriage négatif qui n'existe pas. T'sais, quand on parle de perdre ça à cause d'un horaire atypique, Chris, c'est autre chose. Là. Fait que, je me dis, combien il y en a qui ont vécu ça?
D'un horaire atypique puis d'une dépression. Chris, tu as perdu 250 000 piastres. Genre, qui va. Tout le monde va être. C'est rough pour tout le monde. Genre, c'est, tout le monde va avoir une petite dépression ou
ben,
je sais pas.
Je suis pas sûr qu'Elon Musk s'en calisse.
Ouais, lui c'est lousse, là. Mais genre.
Mais lui, s'il divorce, tabarnak, elle va être riche.
Eh? Ah ouais!
Tabarnak!
Mais c'est comme Bezos.
300 millions.
Ouais, on va dire, je garde ton enfant, ZXX4, là.
Ouais, c'est ça.
Mais genre, Jeff Bezos, quand il s'est séparé, sa femme est devenue la femme la plus riche au monde. Genre, ça, comme son network a battu toutes les autres. Tu sais, c'est fou.
Mais en fait, un concept télé, ça. Hein?
Ça se peut, je
sais pas.
V-Drive,
c'est un peu ça. Hein?
Ouais. C'est les femmes de gars riches. Puis là, les filles sont. Je l'ai pas vu le show, là, mais c'est comme la vie des femmes de monsieur riche. Là. Puis là, ouais. Ils font le tour du monde, les jets, les.
C'est fou, hein, que ça peut être ça ton existence.
Elle se fait acheter le plus gros diamant qu'il y a pas, genre, sa planète, là, ou je sais pas trop des affaires dans le même. Puis c'est fucké comme concept. C'est comme.
D'amener ça comme une réussite.
C'est ça.
Tu sais, d'amener ça comme une réussite. Puis ça, c'est exactement le genre de truc qui donne de la viande à ceux que je parlais tantôt de droite qui sont fâchés. Tu sais, n'importe qui est de droite qui voit ça, fait comme, ouais, on en a, c'est quoi? T'as un documentaire, ça va qu'il faut que tu suces pour être millionnaire,
c'est ça.
Fait que, tu sais, c'est en faisant des émissions comme ça que, après ça, tu vas avoir des émissions des Andrew Tate qui vont pousser au pied carré, là, partout
dans
le monde.
C'est ça qui arrive en ce moment. Mais c'est intéressant à vous râler, là, ça. Mais ouais, on est là, on est dans le retour un peu du balancier, je pense.
Ben, à un moment donné, il faut trouver le milieu, là, si tu veux avancer, là. C'était Einstein qui disait ça, man. La vie, c'est comme une bicyclette. Si t'avances pas, tu seras jamais en équilibre.
C'est ça. Ouais. C'est un bon point. T'arrives à l'aube de la cinquantaine.
Ouais.
Trouves-tu que le temps va vite, mon minou?
Ouais. Mais tu sais, d'un autre côté, c'est ça la vie. Je suis né dans les années 70, moi, dans un Québec en plein changement. L'emblème de la fleur de lys donnait un peu d'espoir aux gens.
Ah, ouais, hein?
Puis là, c'est ça. Là, je suis rendu stick. Ouais, 50 ans. J'ai 49 ans, là, au moment où on se parle. J'aurai 50 l'an prochain, finalement.
Mais t'as pas l'air, par exemple. Si non, ça peut. Vrai. T'as l'air vraiment pas d'avoir 50
ans. Ben, merci bien. Merci bien.
Ça me fait plaisir. Tu te teins-tu les cheveux?
Non. Non. Pas encore les cheveux. Pas encore les cheveux. J'ai commencé à la barbe, par exemple. Ça, moi, t'avoues que la barbe.
Ah, ouais, tu. Un petit. Cheveux, on va.
Mais c'est ça, tu sais. Ce qui est important, si tu veux bien vieillir, c'est d'avoir les bons suppléments puis d'être vraiment bien suivi. Je donne des formations
ouais,
là-dessus.
Oui, c'est ça, j'ai vu
si
ralentir. Ça... Ouais. Je t'ai vu.
Mais ouais, ça. D'un côté, ça rentre dedans, mais c'est plus au niveau c'est au niveau de la pression de la société, je pense. Tu sais, ça rentre dedans quand tu as 50 ans, quand tu dis, quand tu te compares justement avec du monde prennent leur retraite à 41 puis tout ça, puis tu vois ces réseaux sociaux. Moi, j'étais millionnaire à 24 ans, tu sais, trouver un shawarma, me s'acheter une maison. Puis tu sais, quand tu vois ça, c'est sûr ça rentre dedans. Sauf que d'un autre côté, quand tu te compares avec toi-même, je veux dire, j'ai fait du chemin là, depuis le temps que j'étais, que j'étais à l'école de l'humour, puis j'aime ce que je fais dans la vie, j'adore ma vie, je trouve que j'étais à la bonne place dans la vie. Fait que oui, ça rentre dedans, mais d'un autre côté, je suis tellement content, là.
T'es rendu là.
Ben oui, je suis rendu là. T'sais, j'ai fait mes enfants tard aussi, 37 puis 39 ans. Et fait que tout en retard, j'ai eu mon diplôme d'études secondaires hier. Puis, c'est pas vrai. Mais tout est en retard, t'sais, justement. L'école de l'humour, 31 ans. Les enfants, 37, 39 ans. Tu sais, quand j'ai fait skate le monde, mine de rien, j'avais 44 ans. Ma gérante de l'époque m'appelle, elle dit « Tu fais ça encore du skate? » Je suis comme « Man, ça fait 20 ans, je skate plus, là. » Puis je dis « Pourquoi? » Elle dit « C'est pour une émission de TV, tu vas faire le tour du monde. » Je suis comme, oui, je suis en train de skater. Je suis en train de faire des kickflips, c'est ça, en bas d'une 12 pieds. Fait que, tu sais, j'ai commencé Skate le Monde à 43 ans. J'ai fait ça jusqu'à 47 ans. Puis encore là, j'étais vieux, tu sais, pour un skater. J'arrivais là-bas, il y avait tout 21, 22 ans, des secs de même, mystique. Moi, j'étais le gars de 6 pieds dans le trafic à Tokyo, facile à viser, là. Mais je suis content d'avoir l'opportunité de vivre ça, peu importe l'âge que je le vis.
Mm-hmm.
Tu sais, puis je trouve que l'âge. Tu sais, c'est un comparatif qui est bien, bien nocif. Bien du monde qui s'empêche de faire des affaires parce que ils se disent « Ah, j'étais l'âge, je suis plus de mon âge.
Ouais, » ouais, ouais.
Faire ça, c'est plus de mon âge.
C'est juste
pis...
vivre.
Ben, c'est ça qui est intéressant au début du podcast, que genre, tu sais, à 30 ans, tu as décidé d'aller dans un domaine pour les jeunes, on dirait. Tu sais, à 30 ans, tu te dis « Moins, je vais devenir humoriste, là, mettons. »
Ben oui.
C'est plus une idée de jeune, mais tu sais, t'as un exemple que ça peut fonctionner quand même. Là.
Ouais, surtout qu'à 36 ans, j'animais à Télétoon. Là.
Ouais, c'est ça.
Tu sais, puis vous étiez kid dans ce temps-là. Moi, j'animais à 36 ans, là, tu sais. Fait que tout peut se faire plus tard, puis le regard, tu sais, le regard que les autres donnent sur ce que tu fais ou le regard que toi, tu donnes par rapport à ce que les autres font, ben si c'est enclavé dans une espèce de vision linéaire de la société de me dire de penser ça, ben là, t'es fourré, là. T'sais, tu te dis, hey, je peux pas faire ça, je suis trop vieux, je peux pas faire ça, je suis trop jeune, pas faire ça, je suis pas assez bon, je suis pas ci, je suis pas ça. Tu sais, si t'as le goût, essaye-les. Si ça nuit à personne, tu sais, je vous parle pas, Chris, si t'as le goût de tuer quelqu'un avec un couteau à beurre, là, ça va être long et pénible, mais si t'as le goût de faire de quoi, essaye-les. Sans que si ça porte pas dommage à quelqu'un, peu importe l'âge que t'as, go for it,
mais justement, vu que t'es vieux, puis que t'as du wisdom, tu sais, t'as fait quand même 49 fois le tour du soleil, puis t'es un beau bonhomme en plus, fait que t'as dû vivre quand même des expériences en tant que célibataire, puis c'est parfait parce que ça nous mène pour la question Eros et compagnie. D'ailleurs, break 15% de rabais sur tous leurs produits en magasin, c'est alors... la vraie bombe. On voudrait savoir, c'est quoi ta meilleure anecdote de célibataire de ton temps de gars de célibataire, aussi?
Ah, oh, bon boy! Ben, c'est drôle, tantôt, tu parlais de dater, votre show dater à l'aveuglette, là,
ouais,
dater
ouais.
à l'aveugle. Je trouve que Tinder, c'est un peu ça.
Ben, c'est t'sais. Ça, nous, c'est la version vraie, c'est un peu ça. On voulait, genre, que ça soit plus... c'est la version vraie, un peu, genre, de ouais. Tinder, tu comprends?
Parce que Tinder est arrivé à peu près en même temps que Facetune. Puis ça a un effet négatif, tu sais. Facetune, qui est un Photoshop avec ton cellulaire, que ouais. tu peux tout modifier, fait que... Souvent, c'était weird. J'haïs l'ambiance de première date, où est-ce qu'on dirait que t'es comme en entrevue pour une job? Ouais. Tu sais, t'es comme, oh, ouais, j'adore les enfants. Ouais, je suis vraiment comme ça. Ouais. Oh, c'est encore ça. Ben, ouais. Maintenant, non, mais tu sais, c'est encore ça. Je trouve que le monde, tu sais, fait 5 ans que j'étais avec ma blonde, on est vrai quand on se parle. Puis quand on va au resto, des fois, on entend du monde en date.
C'est le fun d'analyser ça.
C'est drôle.
Ah, ouais, c'est,
oh. C'est drôle de les entendre parler. Puis toi, c'est quoi tes passions? Hey! C'est quoi tes passions, ah, man? Quelle question de talk show de fin de soirée. De, ben, moi, mes passions, ouais, c'est l'aquarelle et aller à la Malbaie et déguster les confitures du terroir. Voyons, aussi. Fait que le monde est tellement en représentation. Moi, ma pire anecdote, ben, c'est pas ma pire, mais regarde, m'a raconté comment j'ai rencontré ma blonde, justement.
Ben là, c'est ça, on lui demande ça, mais c'est parce que ta blonde est juste en arrière des caméras, fait que t'es dans une position, t'es dans une position difficile. Fait que raconte ta blonde, quand même, tu vas pas choquer personne. Alright, la gang, petite interruption pendant l'anecdote de notre couple dysfonctionnel. On va le reprendre bientôt, là. Vous allez finir d'avoir toute l'histoire de la rencontre de Mathieu et Salon.
C'est bon,
tabarnak. Ah, c'est une des bonnes, là. Ça. Il y a eu des malaises, il y a eu des moments d'incompréhension. Fait que, on espère que vous allez apprécier ça. Mais là, on fait de quoi différent parce que aujourd'hui, dans le segment Eros, on voulait gâter mon co-animateur Frank qui est rendu en couple. Puis on s'est dit que Chris avait juste des genres de paquets de poussi, des affaires de masturbation.
J'ai juste des trucs pour célibataire.
T'sais, avec là, ça prend de quoi pour solidifier votre union de couple, fait qu'on s'est dit pourquoi pas un jeu de société, t'sais. Fait que là, vous voyez, on est dans la section jeu de société du RA sur Saint-Hubert.
Inspiration couple, fait que ça nous a donné envie c'est de ça. Sélectionner parmi les jeux suivants, donc
un jeu. Quelque chose de jeu. Spécial, c'est ça. Puis là, visuellement, on voit, il y a quand même genre de la, t'sais, il y a de la démarche là, dans les jeux sexuels, là. Tu vois qu'ils se focusent sur le cover quand même.
Ça, c'est un jeu pour notre fofol national.
C'est ouais, ça, c'est réservé à fol.
Je crois que mission intime, moi.
Tu vois, c'est le jeu que je parle tout le temps dans les podcasts que j'aimais, là, c'était vrai, c'était...
Tu l'as déjà eu,
c'est la compagnie, ben c'est pas exactement lui, mais c'est le même genre, c'est la même compagnie, le Tease and Please.
Ça, là. Alright, je vais y aller avec ça. T'as une petite huile de massage.
Ouais.
Ça se complète bien.
Ce que Mathieu, ça, aurait peut-être pu faire à la place de la masser dry ses épaules pendant qu'il était pas sûr. Une huile à massage, ça serait parfait.
Break 15, c'est là que ça se passe, chez Eros et compagnie. Merci.
Ouais, c'est ça. J'étais célibataire depuis une couple de mois. Je sortais d'une relation de 12 ans. Puis, Steven, elle pensait que j'étais un sale player, OK? Puis c'est juste parce que je dis la vérité, tu sais. Je fais juste dire ce qui est parce que, Chris, on l'a dit tantôt, je suis vieux. J'étais en quarantaine quand ça arrive. J'ai 44 ans. J'ai pas le temps de niaiser puis de faire comme, hey, on se parle, on chatte ensemble pendant 3 jours, puis on a 3 meetings, dont on se voit au resto, puis on prend un café, puis à un moment donné, je vais peut-être aller chez vous la troisième fois. Tu sais, veux pas, souvent après, même pas 5 minutes, tu sais si ça clique avec quelqu'un.
Wow. Puis elle avait quel âge?
Puis elle venait d'avoir 16 ans. Fait que je me suis dit, c'est illégal, c'est illégal. Non, elle a. Ben là, présentement, je dirais, elle a 31 maintenant. Fait qu'elle avait 26 quand c'est arrivé. Fait que c'était. Mais je savais pas qu'elle avait 26. Moi, je savais pas. Elle avait l'air d'au moins 43, tu sais. C'est-tu qu'elle va me tuer? Mais je savais pas qu'elle avait 26 ans, tu sais. Puis on se rencontrait pour affaires parce que dans ce temps-là, Ashley faisait. De la business avec beaucoup d'humoristes. Elle a fait les bobettes de sous-écoute pour Mike Ward et Jean-Thomas Jobin. Elle a travaillé pour Evenco, Juste pour Rire, Comédia. Fait qu'elle était dans le milieu. Elle était à toutes les premières de show d'humour et tout ça. Fait que moi, je voulais faire de la merch. Fait que c'était un meeting pour vendre de la merch. T'sais. Là, on se donne rendez-vous. Je pense que c'est au Keg. Au Keg à Laval.
Yes.
Non, je ne t'agresse pas. On arrive au Keg.
C'est pas un restaurant déjà. C'est un quand même... T'sais, ça paraît qu'il est vieux. Là. Il y a okay. De l'argent pour la sortir.
T'es, OK, tu t'es forcé. Tout,
ben non, mais c'était un meeting d'affaires. Chris, on ne se rejoindra pas dans le parking du Dollarama, man.
Ouais.
C'est sûr, tu y vas. Tu y vas, mes affaires roulent, tu sais.
Ouais.
Fait que tu vas au Keg, en Uber.
Burger
vegan. Non, non, j'ai pas commandé un burger vegan. J'ai pris un burger de dinde. Au Keg, ouais. Ouais, mais j'ai essayé de couper la viande rouge. Je venais de voir un reportage là-dessus, comme quoi c'était Leonardo DiCaprio me disait ça pollue. Il disait ça entre 3 voyages en jet.
Ouais.
Ça, c'est... Si tu veux être Léo, il se pognait des filles de 25 ans, lui, tout.
Ouais, ben c'est ça. Ça, je m'enligne là-dessus, la grosse barbe de style ton moraliste. Tout est là. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'on se rencontre au Keg, puis tout, puis on commence à parler. Puis il y a tout de suite, quand on commence, il y a une tension. Il y a une tension, man. Sexuel. épeurante. Là, c'était
dans comme... le meeting business, là, tout de suite, tu sens...
Puis c'est ça, on est là, puis on jase, puis...
Dans tes shorts ou entre vous deux?
Entre vous deux. Okay. Entre nous deux. Entre vous deux, Chris. Je sais pas ce que c'est là, mais...
Comment tu l'avais calculé, genre, fait des petites jokes, tu sais, c'est comment tu t'es dit, il y a une tension sexuelle?
Non, mais tout de suite, en arrivant, tu sais, tout de suite, j'arrive... Elle me parle, elle bégaye un peu. Allô? Puis elle était toute gênée. Je suis comme, Carlis, que c'est ça? Puis là, elle lève son chandail, man. Elle a un décolleté jusqu'aux chevilles. Je suis comme, OK, ouais. OK, c'est spécial.
Puis là, c'est on spécial. Commence à.
C'est business.
Ouais, c'est business, tu sais. Puis le pire, Chris, c'est qu'elle vend du linge. J'aurais pu en mettre. Là, on se colle un drink, tu sais. Puis là, on commence à jaser. Mais tu sais, avant de faire un deal en business, n'importe quoi, tu sais, surtout en humour, puis dans le showbiz, c'est un peu informel. Tu sais, tu veux connaître l'autre personne, tu sais, c'est quoi ton background, puis tout ça. Fait que, on s'était parlé un peu sur le web. Fait que je savais qu'elle aussi était divorcée, puis elle avait un enfant. De là, le fait que je pensais pas qu'elle avait 26 ans. Tu sais, elle avait un background quand même de quelqu'un de début trentaine, tu sais. Fait que là, on commence à se parler, puis tout, puis... Elle est mal à l'aise. Fait que là, moi, je sais plus quoi faire. Je suis juste comme, je fais n'importe quoi. Je fais des jokes de pète, de n'importe quoi. Puis là, je commence à... À un moment donné, tu sais, on est rendu au deuxième verre, troisième verre. Puis là, je le vois que la tension est là, tu sais. Puis elle fait bouger ses boules, comme quelqu'un qui fait bouger ses pecs.
Ouais, on donc, c'est quoi ce meeting de business, là, esti? Ben tu veux-tu venir donner ta version?
Ok, viens, t'as. Ah, je vais raconter ça.
Je fais ça.
Ben, vas-y, conte-nous ça.
Ok, ouais, on veut ta perspective. Fait que là, toi, comment tu le rencontres au keg? Là? C'est quoi la perspective que t'as de ton bord? Tu le trouves-tu beau? Fais-tu bouger tes seins? C'est quoi qui se passe?
Moi, c'est la première fois que je le vois. Puis moi, j'ai jamais eu aucune relation. Tu sais, c'est professionnel. Mais si t'en dis, je mélange pas amour puis travail ou sexe, travail, peu importe. J'arrive là-bas. Là, au début, il me dit j'ai réservé dans un restaurant. Fait que là, on était censé aller quelque part. Mais là, il me dit ça a été annulé, mais j'ai tout fait le ménage de chez nous si jamais ça te tente.
Attends, j'ai dit ça.
Toi, t'avais prévu ton affaire.
Keg, fait que là, moi, après ça, je fais non, je vais pas chez un inconnu, je vais pas aller chez toi. T'sais, même si t'es connu, je m'en fous. Là, je te fais pas confiance, je sais pas t'es qui. Fait que là, finalement, je dis on va aller au keg. Fait que là, il dit ouais, t'es sûr, chez nous, c'est propre. Non, je suis comme on va aller au keg. Parce que moi,
attends, fait que toi, tu voulais faire le meeting business chez vous parce que tu venais de faire le ménage. J'étais pas. Tu savais ce que tu faisais un peu, là.
Ben, pas tant. Je veux dire, moi,
j'ai. Come on. Là, après ça, finalement, j'arrive là-bas.
J'étais un gourou.
J'arrive là-bas, je suis comme. Je suis un peu nerveuse parce qu'il est vraiment confiant, puis je suis pas habituée d'être avec quelqu'un qui a autant de confiance que ça. Fait que là, on s'assoit, puis là, il me dit, tu sais...
Attends,
je suis beau.
Voyons, toi!
Attends, mais ça, c'est arrivé après bien du temps,
non,
là.
Non, pas en tout.
Ben oui, la connexion passait déjà, t'avais déjà fait bouger tes boules.
Puis non. J'avais fait bouger mes boules, puis mes boules, j'avais bougé parce qu'il faisait bouger ses pecs comme The Rock. Je disais, ça m'impressionne pas, moi aussi, je suis capable de les faire bouger. Fait que
là, ils avaient fait bouger. Ah, c'est ce qu'on
était à l'avant, là! Puis là, après ça, il commence à me dire... il prend son téléphone puis il dit, c'est fatigante. Je suis comme, c'est quoi? Il dit, il y a une fille, là. J'ai dit que je l'aimais, fait qu'elle me lâche pas.
Tabarnak!
Moi, je suis là, puis je suis comme, man, c'est un nest player, là.
Mais moi, j'étais juste un livre ouvert. C'est vrai que la fille disait qu'elle m'aimait, puis c'est vrai que j'avais fait le ménage. J'ai juste dit la vérité.
Fait que moi, dans ma tête, j'étais comme, arc, jamais de la vie, j'irais avec un gars comme ça, là. Tu sais, c'est ben trop player pour moi. Fait que là, finalement, quand ça me dit, je suis beau, t'es belle.
Je comprends pas ta game pour de vrai.
Ben, il venait d'être célibataire après 12 ans. Tu sais? Fait que là, il me dit, on peut aller chez nous. Là, je suis comme, non, on va pas aller chez vous. Là, il me dit, on peut aller dans les toilettes en haut. Je suis comme, non, on va pas aller dans les toilettes en haut. je le trouvais quand même attirant. Puis il me dit, j'en ai une longue de main.
Hey, pis... come on! J'ai au moins mis 3 pouces de plus que ça, là.
Hey, je veux jamais faire de la business avec toi.
Fait que là, moi, je suis comme, OK.
Est-ce qu'il compte juste sa version des faits?
Puis là, je suis super mal à l'aise. Fait que là, il commence à faire des bruits de pète pour essayer de me rendre à l'aise. Mais je suis comme... Je sais juste, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Fait que là, finalement, après le restaurant, on sort, il essaie de m'embrasser, mais là...
On s'est embrassé.
Mais je l'ai repoussé.
Non, mais Chris, attends une minute, là. On a fait 2 restaurants différents. Il y a une game de cruise qui venait des deux bars. t'as fait bouger tes boules, t'avais mis un décolleté jusque-là. On s'était croisé avant ça quand on se parlait sur Messenger. On s'était croisé avant ça quand on se parlait sur Messenger. La table était mise. Chris, tu ne mettras pas hashtag MeToo sur le dos,
mais
là,
non,
gars.
Je sais,
on est arrivé là-bas, puis t'étais willing. La seule chose, c'est que t'étais gêné.
Mais j'étais en représentation.
T'étais en représentation, puis tu ne voulais pas mêler business. Et désir sexuel.
Je suis professionnelle.
Ouais, sauf que là, tu l'as fait, ça fait 5 ans qu'on est ensemble.
Ouais,
tu peux pas dire que c'était un mauvais move.
Fait que le lendemain, il m'a réécrit, « Hey, c'était-tu correct? » Puis moi, j'ai dit, « Excuse-moi, je filais pas, je faisais de l'hypoglycémie, j'étais dans ma tête, de l'hypotension, la totale. » Il dit, « OK, je comprends. » Je me disais bien qu'une fille qui travaille dans le milieu de l'humour peut pas être autant coincé que ça. J'ai fait non, c'était vraiment, c'était moi qui filais pas.
J'ai pas dit ça, j'ai dit une fille qui travaille avec le public.
Le public. Fait
exactement.
Que là, finalement, il m'invite à aller au bordel parce qu'il y avait un show, mais il m'invite à aller manger chez eux avant.
Attends, tu sautes des bouts. T'es arrivé chez vous, t'as dit que t'étais pas capable de m'enlever de ta tête.
Ouais.
Puis que tu pensais constamment à moi.
C'est vrai.
Puis que tu t'es touché en pensant à moi.
Non, c'est pas vrai.
Oui, c'est vrai. Chris, tu me l'as dit souvent. Là, t'arrives avec ça, là, tu crées, j'ai l'air d'un esti de perf,
hey,
man.
On est là, quand
ça. Ça allait... ben oui, t'as même dit te preigner ton majeur. Puis là, tu sais, là, on est en train.
Il y a du montage, hein, là-dedans.
Ouais, puis ils vont regarder ça. Là, t'es en train de parler de ça. C'était comme si c'était à sens unique. Ça allait d'un deux bords, là. Avoue-le que ça allait d'un deux bords,
d'un
au moins.
D'un deux bords, ça rentre.
Ben exactement. C'est juste que toi, t'étais gêné parce que t'étais dans vingtaine. Puis tu disais, je veux pas mêler ça, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Puis je suis une femme de principe. Non? Alors que moi, je suis dans quarantaine. Je suis comme, man, le courant passe. Je viens de rencontrer à peu près 7-8 filles avec qui j'ai jamais eu cette connexion-là dans les 3 mois que j'étais célibataire. Là, je suis comme, Chris, il y a de quoi qui se passe que je sens que ça va au-delà de justement tes belles chubots. Chris, il y avait quelque chose de ça va ailleurs. T'sais. Puis moi, je le filais, puis j'étais dans la quarantaine, puis je suis comme, man, j'ai pas le temps de niaiser, là, de on va faire ça professionnel, nanana. C'était plus ça qui se passait dans ma tête. Puis ça a été perçu comme un nasty perf player, alors que j'étais juste honnête. Bon, à part le fait que je n'ai une grosse de même, mais tout le reste, j'ai fait le ménage. C'est vrai que j'ai fait le ménage. Tu peux venir chez nous, c'est vrai que tu peux venir chez nous.
Mais attends, je vais quand même compter la suite parce que là, celle-là est crunchy. Là. Fait que là, finalement, je m'en vais chez eux avant son show. Il me fait à manger. Je suis comme, oh wow, un gars qui fait à manger.
Saumon à l'amandine.
Saumon à l'amandine avec un petit peu de Jack Johnson en arrière en
puis
musique.
Puis du Vans Joy.
Puis du Vans Joy. Uh-huh. Super comme chill comme moment. Là, il trouve que je suis comme tendue. Parce que moi, je sors de 7 ans aussi de relation. J'ai pas daté, j'ai pas eu de one night, tu sais, quoi que ce soit. Je suis tombée célibataire, je suis restée célibataire. J'étais comme, fuck les gars, moi, virée lesbienne, tu sais. Fait que là, finalement, on arrive là-bas, il commence à me faire un massage. Il dit, t'es tendue, tu sais, détends-toi. Là, je suis comme, OK. Là, il me dit, hey, j'ai un show, je m'en vais dans la douche, tu peux m'attendre, va pas dans la chambre, je m'en viens, tu sais. Fait que là, finalement, je suis assise, j'attends. Là, après ça, il sort, il me met sur le lit, commence à me masser.
Attends, il me met sur le lit. Je t'ai pas mis sur le lit. Tu t'es couché. Ouais, que je t'avais mis sur le lit.
Non,
hey,
mais
là du saumon, je t'ai mis sur le lit.
J'étais assise sur le lit. Puis il me dit, attends, je vais te faire un massage. Fait que là, je suis comme, OK. Puis là, je suis vraiment. Je bouge pas. Tu sais, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, lui, il était juste sorti avec sa petite serviette là, blanche. Là.
Son gros là, bat.
Ouais, après ça.
Ouais, je l'avais le plancher
après
avec.
Ça, pendant qu'il me masse, j'en ai quoi de dur. Je suis comme, oh shit! Fait que là, après ça, je me revire, puis il laisse tomber sa serviette, puis il dit « T'aimes ce que tu vois?
» Yo! Aïe, ah, man! Genre...
Fait que là, j'ai fait « Ouais! »
On dirait
ça...
un film, mais genre fucking écrit, genre... Genre, on dirait le cliché d'un film de dating.
Oui.
Genre...
Fait que là, finalement, après ça, on a été au bordel, puis après ça, on s'est revus, puis j'ai appris à le connaître, puis j'ai vu que... C'était vraiment juste maladroit, puis parce qu'il est naïf, puis parce qu'il venait de sortir d'une longue relation, parce qu'il est pas aussi player que... Il est pas player que ce que tu laissais être, là, paraître, mais c'était...
Peu importe ce que tu dis maintenant, ça annule pas ce que tu as dit avant. Fait que, oublie ça!
fait que c'était ça, l'histoire.
Hey, merci! Achetez jamais, mesdames, messieurs!
Félicitations!
Ah, bon boy, mais tu sais, si je compte ma version des faits, ça ressemble un peu à ça. J'avoue pour l'affaire de « Je n'ai une longue de même ». J'avoue pour l'affaire de « Je fais des bruits de pète pour la décoincer ». Mais c'est parce que c'était tellement stiff. Puis je le vois. Tu sais, quand tu vois que quelqu'un est dedans et qu'il est stiff, mais tu sais, elle t'aime, là, ben, elle t'apprécie, puis elle a un kick, mais elle est comme toute gênée. Puis j'étais comme « Voyons, qu'est-ce qui se passe? » Fait que quand elle dit « J'ai fait un massage », au début, c'était à la table, tout simplement, parce que c'était juste awkward. Tu sais, la musique joue, je fais du saumon, puis je sais que si elle est là, c'est parce qu'on a dépassé le cadre de meeting business. Là. Chris est chez nous. Là. T'sais, il est venu chez nous, puis c'est correct. Je veux dire, je mets pas de pression ou rien, mais sois relax. T'sais, tu peux être relax et dire « Hey, ça fitera pas, moi, y aller. M'a pas te retenir, vas-y, c'est cool, mais sois toi-même. » Je voyais qu'elle était pas elle-même, elle était de même, elle était tout assise. Comme... Je suis comme « Chris, ça va? » Fait que là, ça va, fait que tu sais, j'ai massé les épaules. T'es-tu sûr que ça va, tu sais? Puis après ça, OK, on commence à parler puis tout ça, puis c'est plus chill puis tout. Puis après ça, c'était correct, tu sais, mais c'était comme une espèce de barrière de... Était vraiment fixe de... Je baiserai pas quelqu'un qui fait de la business.
Ouais, ouais, ouais.
Puis moi, je suis pas au courant de ça.
Mais ça doit être aussi intimidant pour une fille de 26 d'être avec un gars de 44 qui a dit qu'il avait une matraque dans le pantalon.
Ouais, mais moi, je savais pas qu'elle avait 26. Puis moi, tu sais.
Ben, tu devais le savoir à.
Non, OK, je l'ai su genre 7-8 mois plus tard. Ça, c'est la partie qu'elle a pas compté, là. Elle a pas compté ça, là. Que... Hey, mais ça me l'avait dit.
7-8 mois plus tard.
Oui, oui, c'était long, là. Ça me l'avait dit. Non, j'ai 26 ans. J'ai une seule relation dans ma vie. Qui a duré genre 8 ans, 10 ans, j'aurais été comme « OK, Chris, je comprends le personnage. » Mais moi, elle dit « Non, non. » Elle aussi, elle arrive toute confiante avec son petit décolleté de « Je travaille dans le business, je connais tout le monde, je suis une femme d'affaires accomplie, j'ai un enfant, j'ai eu un divorce. » Je dis « Man, elle doit avoir 32, là. » Tu sais, elle sait ce qu'elle fait dans la vie, elle a 32 ans. Pourquoi, qu'est-ce qu'on fait, là? Pourquoi on niaise comme des enfants de 17 ans, on va se dater au secondaire, là? On est deux adultes. Ouais. Je le vois que tu me veux. Visiblement, je te veux. Chris, on aurait-tu niaisé puis on fait-tu de quoi? T'sais? Fait que c'était juste ça, mon mindset. Ouais,
mais ça peut être awkward au début. Je peux comprendre. Puis moi, ça me paraît si je suis pas à l'aise. Fait que l'autre personne, si, mettons, je suis dans une situation même où je suis pas à l'aise, l'autre personne va le sentir. Fait que, mais première rencontre, des fois, ça peut être malaisant un peu. Ouais. Fait que je peux la comprendre.
Tu avais 44, elle avait 26. Votre écart d'âge, est-ce que ça a bien été? C'était quoi? Comment ça se passait?
Ben, comme je te dis, je l'ai su après.
On est comme pendant votre relation de couple, là, votre différence d'âge, est-ce qu'il.
Ben, ça va. Moi, je suis le vieux, fait que je me plaindrai pas.
Ben, là, ça.
Mais ça va bien. La seule chose, c'est point de vue ami, c'est un peu différent. Mais encore là, ses amis sont un peu plus vieux qu'elle, parce qu'elle tient beaucoup avec des gars. Fait que, tu sais, j'ai un entourage de gars dans la trentaine qui sont ses amis. Puis des filles aussi qui sont qui ont un peu le même âge qu'elle, qui sont début trentaine, puis tout. Fait que, tu sais, c'est... Peut-être vu que j'ai tout vécu en retard, tu sais, parce que quand je vois des messieurs puis des madames de 50 ans, j'ai de la misère à m'identifier à cette génération-là parce que, justement, Chris, j'étais à Télétoon à 38 ans puis je faisais du skate à 44 ans. Fait que c'est même pas une philosophie de vie de « Ah, oh, je veux rester jeune puis je mange du yogourt biotique. » C'est plus parce que je sens que quand tu dis adulte puis tu dis que tu as accompli ce que tu avais accompli dans la vie, tu n'évolues plus. Pis c'est ça qui me fait le plus peur. T'sais, quand je vois des gens justement dans la cinquantaine qui sont setés, ils ont tout leur setup de fête, puis ils disent « Moi, ça va être ça. Pis c'est ça ma vie. Puis je vais attendre la retraite. Puis après ça, je vais vivre un peu. Je vais aller faire le tour du monde pendant 4-5 ans. Puis après ça, je vais rester ici. Puis je vais crever. Je vais mourir. » Je trouve juste ça comme triste de dire parce que puis là, ça va avoir encore l'air cliché, mais tu sais, être un artiste, c'est d'être en constante évolution, là. Puis de chercher tout le temps qu'est-ce qui se passe, puis de quoi je veux parler. Fait que d'être avec quelqu'un de plus jeune, ça me motive. Tu sais, ça me motive là-dedans parce qu'elle est dans le game, puis elle est là, puis je trouve ça cool. Tu sais, elle m'arrive avec. Elle connaît des artistes que je connais pas. Je connais des artistes qu'elle connaît pas. Fait que tu sais, je sais faire du saumon amandine. Fait que on a chacun nos spécialités, là. Fait que je trouve qu'on se complète bien. Puis je sais pas ce que ça va donner dans 20 ans, tu sais. Je sais pas, parce que là, le gap paraît plus ou moins.
Ça va avoir 70.
Mais Chris, mais avoir 70, elle va avoir 53. Là, le gap va paraître, c'est un esti de temps.
Ouais.
Fait que là, sûrement qu'elle va se pogner un petit jeune comme vous autres. Mais entre-temps, c'est moi qui l'ai, même.
Entre-temps, ça va bien. Puis c'est quoi qui t'a fait dire, elle, plus que les 8 autres? Tu disais, t'as eu une couple de dates, puis t'accrochais pas, genre. Ouais. Puis ça, je peux relate un peu avec ça. Fait que dans le sens que c'est quoi qui a fait que elle, tu t'es dit, j'accroche. T'sais, tu l'as vu rapidement, là, première date. C'est les 5 qui bougent. C'est ça. C'était un peu ça aussi, le fond de ma question.
Ben, c'est parce que je voyais, même si t'étais gêné, tu l'as vu comment qu'elle est, là. Tu sais, elle est dégourdie, elle déconne, elle est fun, elle est party, tu sais. Puis. D'un autre côté, elle a une crise de tête sur ses épaules et vraiment business. Puis j'ai tout vu ça tout de suite. T'sais, c'est pour ça que je dis, on laisse faire le fla-fla. J'ai tout vu ça tout de suite. Je sais qu'elle se partait sa business. Elle avait eu avant ça une compagnie de maillots de bain qui faisait de l'import-export, avec des legs des influenceuses. C'était en Floride, en Californie, tout ça. Fait qu'elle faisait faire le stock. OK, on fait ça sur Alibaba. Après ça, on ramène ça ici. On a un manufacturier à telle place. Tout ça, on vend ça dans les shops. Puis tout voir ça... de la part de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai un esprit d'entrepreneurship qui est vraiment développé aussi. Fait que de voir quelqu'un qui a cette vibe-là, tout de suite, t'as un esti de gros clic, là, tu sais. Puis après ça, de voir le reste, je trouve extrêmement joli, puis extrêmement séduisante, puis en même temps, crissement brillante. Tu sais, on joue aux échecs tous les soirs quand on soupe. À cette heure, tu vois, regarde ça, c'est le côté vieux. Fait qu'elle a pris mon côté vieux, on joue aux échecs.
C'est qui gagne?
C'est pas mal à FNF.
Pas mal à FNF.
Puis ça, je trouve ça le fun, justement. Ça prend quelqu'un qui te challenge. Puis j'ai pas vécu ça avec les autres après que j'ai fini ma relation. Puis quand tu sors d'une longue relation, tu crisses que t'es pas sélectif. T'sais, 12 ans de relation, ça fait que t'es... Man, t'es comme, OK, je recommence à vivre la vie. On dirait que tu sors de prison, là, tu sais. Puis je dis ça pour moi, mais ça devait être ça pour l'autre personne qui était en couple avec moi pendant 12 ans aussi, tu sais. T'as l'impression de recommencer à vivre. Tu es comme, OK, c'est ça la vie, là. Je peux vraiment... Je peux dater, là. Il n'y a pas de conséquences, tu sais. OK, je l'essaye. Puis, tu sais, quand t'essayes ça, ben c'est une roue qui tourne. Puis je trouve... Tu fais le tour plus vite. Je sais pas si...
Ouais, ça vient vite de la merde.
Ouais, tu sais, je sais pas avoir 22, 23 ans, comment j'aurais vécu ça. Mais à 43, de dater pour dater, t'es comme après 3 mois, tu te dis, man, ça me ralentit dans ma carrière, ça me ralentit dans mes affaires. Je suis tout le temps obligé de faire le ménage chez nous, Carlis. Il y a comme... Il y a rien qui...
J'ai curé de manger du saumon à l'amandine.
J'ai écouté 14 fois Vance John. Mais il y a rien de productif là-dedans. Puis je reviens au côté business. Puis au côté d'évolution, tu vois que c'est contre-productif par rapport à l'évolution. Il y en a qui peuvent être célibataires toute leur vie, mais ils ont une esti de discipline de je date pas trop, selon moi.
OK. Mais est-ce que ta libido fit avec la tienne?
Ouais.
Ouais?
Ouais, ça, c'est cool.
Ouais, pour
des fois, quand on vieillit en tant que gars, les filles sont dans la trentaine, ça fit moins, mais...
Non, la libido est toute là. Ça fit de... ça fit très bien. Ça fit très bien.
All right.
Ouais. Ça va bien de ce côté-là.
Je vais juste imaginer.
Mais là.
Je pense à ton gros bat.
Elle divorce, elle aussi.
Ouais.
Mais là, elle a une bague dans la main gauche.
Ouais, on s'est fiancés. On s'est fiancés deux fois. Pendant Skate le Monde, elle m'a donné. Ça, faut que je te raconte ça, man. On était à Consono, dans les Alpes italiennes, dans un village abandonné où est-ce que les skaters ont take over la place parce qu'il y avait un multimillionnaire à l'époque qui voulait créer une espèce de Las Vegas italien là-bas, à Consono, à flanc de montagne. Ça a duré pendant une couple de mois / couple d'années. Puis à un moment donné, c'est tombé en décrépitude. Fait que t'arrives là, il y a une espèce d'ambiance vraiment glauque parce que t'es en haut des montagnes. Puis t'as comme un 18, tu sais, t'as un hôtel, un casino, tu sais, plein de bâtisses vraiment décrissées avec des espèces de trucs de skateboard qui ont été faits avec du ciment par-dessus ça. Puis c'est puis des graffitis partout, on s'entend. Puis c'est là que j'ai demandé un mariage. J'avais caché la bague dans mon nice portefeuille, ce qui est un assez de gamble parce que je perds tout le temps à tout. Fait que pendant toute la journée, je traînais la bague dans mon portefeuille. Puis à un moment donné, je monte en haut d'une structure. J'ai invité la chérie, j'aimerais que tu me prennes en photo. Elle dit, ben là, tu peux me demander au caméraman. Je dis, non, viens-t'en. Puis ça ne tentait pas de monter, je voyais que ça ne tentait pas. Puis là, quand elle est arrivée en haut, c'est parce que c'était dangereux de monter, il fallait que tu marches une poutre, puis tout ça. Puis là, elle a marché sur la poutre, elle traverse l'autre bord. Puis là, je disais, c'est beau, hein? Puis là, elle checkait le paysage. Elle disait, ah, c'est vraiment beau, puis tout ça. Puis là, je me suis mis à genoux devant elle. Puis j'ai sorti mon portefeuille. Puis là, elle dit, pourquoi tu me donnes ton portefeuille? Là, je check dedans, puis là, elle checkait dedans, bang, puis elle levait la bague. Puis je l'avais pas perdu, man.
Force. C'est cute. C'est fort. Ça. C'est plus ouais romantique que la première histoire de comment vous êtes rencontrés, tu vois.
Ouais.
Il y a
une gradation, man. Yes, puis elle aussi m'a donné une bague, mais je l'ai perdue. Fait que là, c'est une autre bague que j'ai ici.
Okay, là, tu l'as. Puis là, allez-vous vous marier ou genre, t'apprends pas de tes erreurs à ce point-là ou genre, c'est quoi qui...
ouais, mais on va se marier, mais ce qui est important quand tu te maries, faut que tu checkes la société d'Aquet. Là, je me transforme en Pierre-Yves McSween, là. Mais la société d'Aquet, c'est ce qui fait que quand tu te laisses, une des personnes part avec 50% des acquis de l'autre personne. Fait que ça, c'est vraiment ce qu'il faut que tu checkes quand tu te maries. Tu peux te marier au religieux, au civil, whatever. Si t'as pas de société d'Aquet, chacun part avec ses affaires, puis tout est cool. Fait que c'est ça qu'on va faire comme mariage. Puis on va faire ça cet été, à notre festival d'humour, à Joliette, on se marie.
Oh,
à
ouais.
Ah oui, parce qu'on a l'hôtel, tout le monde est là déjà. Fait qu'on se dit, tu sais, pourquoi faire un autre événement? Je dis, on est déjà là, là. Tous nos chums dans l'humour sont là, fait qu'on va faire le mariage là. Ça va être cool.
C'est quand ça?
Puis on veut faire un roast en même temps. Fait que c'est un mariage roast, où est-ce que des invités vont venir nous roaster back à back. Ça va être le 22, 23, 24 août. Nous autres, on risque de se marier le 24 août. Puis ça risque d'être dans la salle de l'hôtel. Fait que on va aligner ça pour que ce soit funny. Puis que
c'est tout nice, c'est un cool concept. Ouais, Très cool.
Qu'est-ce qui s'en vient pour toi à moyen, court, long terme? T'as-tu des trucs à plugger, mon minou?
Ben certainement, man. Certainement. J'ai je pars un podcast, justement. Ma blonde et moi, on part un podcast.
Ah ouais?
Où est-ce qu'on va parler d'un peu des anecdotes, comme il vient de se parler là des... C'est quoi un pays gaffe que tu as fait dans ta vie, dans pas mal toutes les sphères? Fait que déjà, on a une bonne liste d'invités. Le line-up est déjà fait. Fait que on passe ça très prochainement. Sinon, j'ai des shows un peu partout. Je suis en fin de tournée avec Avant la fin du monde avec Olivier Martineau. Il reste trois dates. Je sais que ça sort prochainement, votre podcast. 11 janvier, on est à Joliette. Je pense que c'est pas mal sold out. Les deux autres dates en janvier, c'est Gatineau puis Québec. Albert Rousseau puis Gatineau, la salle, je pense que c'est l'Odyssée. Fait que on a ces deux choses-là. Puis sinon, ben j'ai mon deuxième one-man show en rodage. Fait que je commence à faire le tour du Québec, les petites salles pour commencer, tester les jokes. Puis après ça, ben éventuellement, les grandes salles. Après ça, je m'achète un yacht.
Ah ouais, hein?
Ouais.
On te souhaite ton yacht. Puis allez voir comment devenir un gourou sur Apple TV. Je pense que ça vaut la peine, là, le concept. Alors vraiment, en tout cas, moi, je vais l'écouter. Là. J'ai pas eu le temps, là, mais c'est sûr que j'écoute ça. Là. Tu m'as vendu, j'ai hâte de voir.
Très cool.
Ça m'intéresse, j'ai hâte de voir ça.
Ah ouais, ça va être...
Merci beaucoup pour l'invitation, les gars.
Merci à toi d'être venu, c'était vraiment nice. Belle découverte.
Ouais, là, ça a été vraiment intéressant. On a eu tableau tout ça, pour le reste, ça a donné un bon épisode. J'espère que vous avez aimé ça à la maison. Laissez-nous des commentaires de ce que vous en avez pensé. By the way, on vous en a parlé au début de l'épisode, mais le 6 février, c'est notre première qu'on fait pour notre show dating. Fait que va acheter des billets, là, c'est sûr qu'on a vendu ça. Ça va être sur notre Instagram partout, ça va être dans notre bio. Genre, peu importe, là, tu vas le trouver facilement.
Too blind to date.
Too blind to date.
Petit café campus.
Exact. Petit Café Campus, Montréal, 6 février. Ça s'appelle Too Blind to Date. On cherche du monde pour venir dans le public, mais on cherche aussi des célibataires pour se prêter au jeu. Fait que ça t'intéresse, il y a un formulaire à remplir sur notre site internet, puis tu peux appliquer. Fait que on va en sélectionner là-dedans. Fait
c'est
que...
ça aussi, t'as des amis célibataires, là, souvent à O2, c'était ça. Là, ben c'est des amis qui inscrivaient. Poussez vos amis à s'inscrire. Là, on va faire plusieurs shows. Fait que ce sera peut-être pas ma première représentation, mais on va avoir besoin de bien des invités.
Y a-tu une limite d'âge?
Ben, il faut avoir
du en haute 16, là, comme toi.
Ouais, mais je veux dire, il n'y a pas. ouais, ça, je m'en doute.
18 et plus.
Mais je veux dire, c'est pas, mettons, quelqu'un de 40 ans peut le faire, quelqu'un de 20 ans peut le faire. Ou,
ben, pour l'instant, on n'est pas. Tu sais, on veut faire. On veut y aller comme tout âge confondu, mais on aimerait ça faire un spécial 40, un spécial 50.
C'est ça, varier le truc.
Varier le truc. Là. Ce sera pas toujours le même show. Il va y avoir des twists et tout. Là.
Très cool. Man. Bon concept.
Ouais, ça va être le fun. Mais là, pour le, vu que c'est le premier, on l'essaye. On va voir là, si les inscriptions qui vont rentrer, puis on va y aller en fonction de tout ça. C'est vraiment comme notre épisode pilote, mais on va essayer de switcher le concept le plus possible. Ça va être cool. Là. J'ai hâte. Fait que, venez-vous-en, ça va être le fun.
Yes sir. Un gros merci à tout le monde d'avoir été là. N'oubliez pas de vous abonner après un break. Merci à Monster et Eros avec le break 15. 15% de rabais sur tout. C'était Frank the Dripper, Mathieu Cyr et mon beau-frère. On se dit ciao, baby!